Bellechasse, Saint-Og, la Côte-de-Beaupré, Québec.
Et je salue les gens de Lévis. Je n'ai jamais oublié les gens de Lévis.
Ouais.
Effectivement. Boulevard 102, maintenant 100 % talk. Une propriété, Leclerc Communication.
Boulevard 102. On en jase. À Boulevard 102. Avec Jeff Fortin.
Le midi.
On en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.
Ah, très heureux d'être en onde encore une fois avec vous, chers auditeurs et auditrices de Boulevard 101. Merci de nous suivre, merci d'être là. C'est l'émission On en jase, ton émission d'actualité du midi. Comme à l'habitude, il y aura une petite portion municipale, l'actualité municipale, parce qu'il y avait conférence aujourd'hui, mise à jour des travaux du tramway. On sait que ça vous intéresse énormément. Mais évidemment, on va encore passer une bonne partie de l'émission sur ce qui s'est passé à Montréal, la fusillade, Soraya Ferradam Martinez, la mairesse de Montréal, vient de terminer un point de presse. Également, on va parler de ce mouvement-là, Incel, dans le caucus avec Antonine Iacarini, avec un spécialiste, David Poitras. Anto, je connaissais pas ça, le centre de... Oui, exactement. Centre de la radicalisation qui mène à la violence.
Oui, vraiment intéressant. Puis ça, ils étudient plusieurs formes de radicalisation. Donc, quand il y a des attentats, des fois à saveur plus religieuse, c'est vraiment, ils apportent une perspective vraiment éclairante. Puis ça nous aide aussi à alimenter les politiques publiques. Parce que,
exactement.
Honnêtement, là, que faire pour la classe politique? On en parlera tantôt, là. Mais c'est pas toujours évident, parce que souvent, c'est multifactoriel.
Exactement. C'est un dossier très complexe qui ne se règle pas de façon linéaire. Alors, on va en parler avec David Poitras, qui est directeur technique. Puis on va quand même finir l'émission sur une bonne note. Je me fais un petit cadeau, mais je pense que je le fais aux auditeurs aussi, parce que c'est Matt Paradis de Tout sur le hockey qui va être là. Moi, je suis en vacances jeudi et vendredi. Puis j'ai besoin de savoir toutes les nouvelles concernant le repêchage de la Ligue nationale de hockey qui va avoir lieu vendredi.
Qui le Canadien devrait choisir et tout.
Exactement.
Les gros noms, on les connaît déjà. Même là, on semble avoir un jeu d'échecs qui
c'est
joue
ça.
Entre les différents noms dans le top. Mais c'est intéressant aussi de savoir quel nom qui pourrait être disponible pour le Canadien. Aussi, on a beaucoup de nouvelles côté hockey. Carey Price qui est intronisé au temple de la renommée du hockey. Et Mike Babcock, qui est engagé officiellement comme entraîneur-chef du côté d'Edmonton. Donc, ça brasse dans le milieu du hockey aujourd'hui.
Un intimidateur, toi, qui est engagé encore une fois dans la Ligue nationale. Donc, ça me décourage. Comme s'il n'y avait pas de bon jeune coach.
C'est comme si on fait une rotation des coachs en Ligue nationale. Ça ne marche plus avec un coach quelque part. Il a eu un comportement qui n'a pas d'allure. On va attendre 3 ans, puis on va l'engager 3 ans après. On renouvelle. Tu sais, c'est comme... On ressort les vieux déchets à chaque fois.
Ouais.
Les vieux coachs.
Non, mais c'est ça.
Mais
dans la Ligue nationale de hockey, là, Mike Babcock vient d'être nommé entraîneur-chef des Oilers d'Edmonton. C'est un intimidateur de première. Il a fait faire des affaires à des recrues qui n'ont pas de sens. Notamment Mitch Marner, un des bons joueurs des Golden Knights de Vegas. Au début, à Toronto, il demande « Hey Mitch, fais-moi une liste des joueurs, selon toi, qui est le plus travaillant dans l'équipe au moins travaillant. » Puis le but de l'exercice, c'est de faire en sorte que Marner se rende compte qu'il ne travaille pas assez. C'est correct, ça peut rester dans le privé. Mais non, il arrive dans la chambre, puis il est à la liste. Il dit « Qu'est-ce que ça, c'est la liste de Marner? » Qui est de 19 ans dans la chambre des Maple Leafs. Un intimidateur de première. Un homme qui a fermé les yeux sur des agressions sexuelles. Joel Quenneville, qui coach maintenant les Ducks d'Anaheim. Lui, là, c'est pas vrai, c'est la Coupe Stanley. Les gens de l'organisation disent « Hey, Joël, faut qu'on se parle. Ton responsable du vidéo, il agresse un de nos joueurs sexuellement, une de nos recrues. » Puis il dit « Non, non, vous comprenez pas. Nous autres, on gagne la Coupe Stanley. »
C'est pas important, ça.
C'est pas important, les agressions sexuelles.
C'est drôle, parce que je vous écoutais, puis j'allais dire, c'est un peu comme la religion catholique. Tu sais, les prêtres qui font des mauvaises choses, on fait juste les transférer, dans le fond.
On les envoie ailleurs.
On les cache une couple de mois, puis après, on recommence ailleurs.
On les transfère de paroisse, fait que je trouvais que c'est quand même un bon lien à faire avec ce mouvement Incel et la fusillade. Ça, comme ça, là, ça veut dire circulation.
Je pensais qu'il faisait 6-7.
Non, c'est pas 6-7.
Ouais, non, c'est 6-7. Qu'est-ce qui se passe sur la route?
On a quelques problématiques, là, notamment en raison de certains travaux. À commencer par la 20 direction ouest. C'est difficile depuis le début des travaux au niveau de Taniata sur la 20 direction ouest. Ça fait plusieurs jours. Et ça allait encore ce midi entre Taniata et Chemin des Îles, c'est au rouge. Également, capitale direction Direction ouest, à hauteur de Boulevard Neuvier, il y a des travaux dans le secteur. Il y a une voie sur trois qui est fermée, puis ça crée un ralentissement depuis le début de la journée également. Leur ancienne direction sud pour accéder à la capitale, léger ralentissement aussi. Il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, ça se passe par texto.
Exactement, vous pouvez réagir également à ce qu'on dit en ondes. Question d'un auditeur, pourquoi un gars qui traverserait le Canada pour s'attaquer aux policiers puisqu'il a passé à côté des civils sans rien leur faire, et on dit qu'ils en voudraient aux femmes, c'est avec le manifeste qu'il a écrit. On se rend compte qu'il est dans la logique incel. On va vous expliquer quelle est cette logique-là dans quelques instants. Puis évidemment, il y a de plus en plus d'informations qui vont sortir au fur et à mesure que l'enquête va progresser. Mais avant, on va commencer l'émission en allant rejoindre une journaliste au 99.5 Montréal. Vous l'entendez régulièrement faire des chroniques sportives dans l'émission On en jase, Alex Laramé. Alex, comment ça se passe à Montréal? Quelles sont les émotions qui sont vécues dans la rue?
Ouais, je pense que c'est un dur lendemain de veille là, pour tout le monde à Montréal. Là. Je pense que même jusqu'à Québec, là, vous en parlez, je pense que ça touche la province en entier, mais particulièrement Montréal. Je veux dire, il n'y a pas de policier qui est mort en fonction à Montréal depuis 2002. Là. Donc oui, on parle de la métropole, il y a beaucoup d'enjeux, mais... Oui, exactement. Donc, ça n'arrive pas tous les jours. Puis je pense que ça a marqué l'imaginaire, notamment avec les vidéos là, qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Mais oui, la mairesse Soraya Martinez-Ferrada est en point de presse dans les dernières minutes. Là. Ça vient tout juste de se terminer. C'est d'abord la mairesse de l'arrondissement là, de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Stéphanie Valenzuela, qui s'est adressée visiblement très, très, très émotive. Elle avait les larmes aux yeux, évidemment. Beaucoup de mots vers le policier décédé et la victime civile qui a vraiment été pris dans le feu de l'action. Donc, vraiment, on était dans une optique, dans cette conférence de presse-là, je dirais qu'on était vraiment dans une optique d'espoir. T'sais. On est vraiment en lendemain. Donc, la mairesse Soraya Martinez-Ferrada, la mairesse de Montréal, a mentionné que il y a beaucoup de gens probablement qui ne sont pas rentrés au travail ce matin, qui ont eu certaines difficultés à dormir, tout ça, puis à mentionner qu'il faut aller chercher de l'aide là, pour ceux qui en ont besoin, vraiment. Qui en sentent le besoin, c'est super important. Puis elle a voulu aussi rappeler que justement, d'essayer de rebâtir ce sentiment de sécurité-là à Montréal, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, même nous hier, on avait fermé, on avait barré les portes du bureau parce qu'on ne savait pas, il y avait-tu plusieurs tireurs, finalement, ça a été confirmé qu'il y en avait seulement un seul qui a finalement été neutralisé par les policiers. Mais c'est tout un climat un peu de peur, un petit ressenti à l'intérieur de mal-être qui est au cœur de tous les Montréalais aujourd'hui. Donc, on a voulu vraiment essayer de rassurer la population en disant que là, l'enquête est en cours. Il y a d'ailleurs tout le secteur là, près de la fusillade, c'est complètement fermé. Là. Il y a des centaines de policiers qui sont encore là pour analyser la scène. Tout ça, c'est le BEI et la Sûreté du Québec qui prennent le relais, là, étant donné que mort policière. Donc, ouais, c'est vraiment un dur lendemain de veille à Montréal.
Est-ce qu'on en sait un petit peu plus au niveau de l'enquête? Là, ça avait transparu dans les médias ce matin que l'individu aurait voulu s'en prendre, dans le fond, au siège social de Pornhub. Est-ce que c'est confirmé?
Ben, tu sais, on n'a pas de message clair, là, évidemment. Le BEI, là, comme on le connaît, eux, c'est très, très fermé là, lorsqu'ils font des enquêtes. Très peu d'informations qui coulent. Mais tu l'as dit, là, selon les différents médias, là, ce qu'on rapporte, c'est que le tireur aurait laissé un manifeste. Là. On parle d'un document d'une centaine de pages. Là. Je veux dire, le gars était complètement désaxé. Il s'attaque à tout plein de choses là-dedans, notamment aux femmes. Il s'attaque aussi justement à l'industrie de la pornographie. D'où vient le lien? Parce que ce qu'on a réalisé par la suite, c'est que l'homme avait loué une chambre d'hôtel, un hôtel Hilton sur le coin de Décarré. Puis juste en face, bien, c'est les bureaux de Halo. C'est la maison mère de Pornhub. Donc, on fait le lien parce que selon les gens qui ont consulté le manifeste, il y a beaucoup de pages, là, beaucoup, beaucoup dans son manifeste. On s'attaque justement à l'industrie de la pornographie. Tu l'as mentionné, le tireur qui serait de l'idéologie incel, donc les célibataires involontaires. Puis dans ce document-là, il tire sur tout ce qui bouge. Les chirurgiens plastiques, on parle des banquiers, les promoteurs immobiliers. Il y a même certains politiciens qui sont attaqués dans ce document-là. Donc, on parle vraiment de quelqu'un qui avait complètement perdu contact avec la réalité, qui vivait dans son monde puis qui a commis l'irréparable. Donc, on n'a pas de confirmation claire, mais tout semble indiquer que sa cible première, c'était les bureaux de Pornhub. Puis ensuite, les policiers sont arrivés puis ont fait acte de bravoure, sont arrivés au front. Puis malheureusement, il y a un homme de 34 ans qui est décédé, un père de famille, sa femme est enceinte. Là, c'est une totale tragédie.
Ah, quelle tragédie! Nos pensées vont à la famille, nos pensées vont à l'équipe du SPVM qui a agi avec énormément de sang-froid dans cette tragédie. Alex Laramé, merci beaucoup. Puis s'il y a d'autres nouvelles qui proviennent de Montréal d'ici 14 heures, fais-nous signe.
Certainement.
Salut Alex, merci. Alex Laramée, journaliste au 99.5 Montréal et chroniqueur sportif également à l'antenne de Boulevard 102.1. Avant qu'on traite de ce sujet avec Antonine dans le caucus, Mathias, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité ici, l'actualité plus régionale?
Oui, la mère des fillettes Carpentier, Amélie Lemieux, qui s'est entendue sur une indemnité avec la Sûreté du Québec. C'est TVA Nouvelles qui rapporte l'information. Madame Lemieux qui s'est dit satisfaite du montant obtenu. Les détails de cet accord ne sont toutefois pas dévoilés pour l'instant. Je pense que tout le monde se rappelle bien sûr cette histoire macabre des fillettes Carpentier qui est arrivée au Québec maintenant. Il y a de cela quelques années maintenant. La police de Québec a trouvé hier le corps d'une femme dans un secteur boisé de Lévis. C'est une opération de recherche qui a eu lieu tout au long du fleuve, autant sur la rive sud que la rive nord. On parle d'une mort suspecte et l'enquête est toujours en cours. Toutefois, un suspect a été arrêté, un homme de 60 ans qui devrait rencontrer des enquêteurs prochainement. Il pourrait faire face justement à des accusations. On parle de deux postes de commandement qui ont été mis, un du côté du chemin Sainte-Foy sur la rive nord et un du côté de Lévis également. La victime qui serait une femme âgée d'une cinquantaine d'années. La Ville de Québec dresse un bilan positif des travaux Tramcité jusqu'à maintenant. Tous les chantiers qui devaient être enclenchés ce printemps l'ont été, notamment, on le sait, dans l'ouest de la ville, dans l'ouest de l'Université Laval. On prévoit intensifier les travaux en vue de la rentrée scolaire, notamment sur René Lévesque, du côté de la ville et surtout le maire Marchand. On affirme que ça va rendre la situation plus difficile, mais on ne parle pas nécessairement d'une tempête. On dit que les gens vont être... On fait confiance aux gens qu'ils vont être capables de s'ajuster, que la ville a mis les mesures en place pour aider les gens en question à le faire.
On va en parler un petit peu plus tard dans l'émission.
Les vrais enjeux.
418-971-101, répondez par oui ou par non. Est-ce que cette tragédie-là à Montréal vous a secoué? Moi, Anto, ça m'a vraiment secoué. Plus que je l'aurais pensé, peut-être parce qu'on l'a vécu live en ondes hier,
ben oui.
Moi et Mathias. Donc là, tu sais, où il y avait plein d'informations qui arrivaient, puis c'était très difficile de suivre le cours des événements.
J'étais là un petit peu aussi,
au début. Exactement. Roger Ferland, le remercie, qui est venu nous porter main forte à deux reprises durant l'émission. Mais ce qui me perturbe, moi, puis c'est pour ça que je répondrais à un oui en majuscule si j'étais un auditeur, c'est toute cette montée-là de la radicalisation et de la violence. Puis là, ça, c'est dans plusieurs mouvements qu'on le voit. Et moi, ce mouvement-là, Incel, c'était complètement étranger. Je le connaissais pas. Puis là, de savoir qu'il y a des hommes qui sont célibataires, qui utilisent la violence pour se faire valoir, ça me perturbe énormément.
Bien, je te comprends. Puis la première des choses, c'est que c'est normal que ça se passe un peu loin de nos yeux. C'est pas nécessairement dans nos milieux, à part si, à un moment donné, t'as un proche là, qui tombe dans cette radicalisation-là.
Ouais, exactement.
Mais c'est vraiment lié au phénomène des chambres d'écho, ce phénomène-là aussi. Puis, il est très intimement lié aux réseaux sociaux, à la montée de la communication numérique. Et ce qui fait en sorte que tu deviens comme dans une petite bulle. C'est pas quelque chose... Là, les médias traditionnels commencent à s'y intéresser,
ouais.
Mais ça avait l'air de quelque chose d'assez niché, qui était pas trop répandu. Mais finalement, on se rend compte que c'est un phénomène qui est en montée. On parle beaucoup quand même, et de plus en plus, je pense, d'une certaine détresse là, chez les jeunes hommes. Là, on ne tombe pas dans la radicalisation, mais quand même d'un intérêt plus grand pour la droite politique.
En effet.
Et quand on pousse à l'extrême, ben on s'en va vraiment dans un autre degré. Et là, on tombe dans les cercles initiales.
Oui, parce que ces chambres d'écho-là, j'en parle énormément en ondes. Puis je veux vraiment toujours les mettre à l'avant-plan pour essayer de les anéantir le plus possible. Parce que ces chambres d'écho-là, puis là, pour donner un exemple, ici à Québec, c'est le genre de groupe uni contre Bruno Marchand, où là, t'es 2000... puis je vais utiliser le mot, t'es 2000 tarés à juste vomir ta haine sur Bruno Marchand à chaque jour avec des posts sur les nouvelles de la ville de Québec. Mais dans ces 2000-là, à un moment donné, il y en a un taré qui va prendre un gun puis qui va y aller.
Ben c'est ça. Puis tu sais, c'est des événements qui sont complexes. C'est pas parce que t'aimes pas un politicien que tu vas faire le pas de prendre une arme à feu puis d'aller t'y attaquer. Mais à un moment donné, ces groupes-là qui se radicalisent puis qui sont un peu décomplexés puisque les autres te disent bravo, bravo.
Ben oui.
Puis souvent, c'est des gens seuls qui se trouve un groupe d'appartenance.
Mm-hmm.
Donc, ce groupe d'appartenance-là, on a vu aussi, hein, il y avait comme des espèces de miliciens là, qui ont été arrêtés puis qui prévoyaient faire une attaque ici terroriste à Québec, ici là. À Québec. Ben, ces gens-là, souvent, il y a une solitude à exploiter. Puis il y en a qui vont tomber dans des sectes religieuses, mm-hmm. il y en a qui vont tomber dans toutes sortes de choses. Et un des groupes d'appartenance, où est-ce qu'ils trouvent une espèce de famille puis une espèce de réconfort, bien, c'est des groupes radicaux comme ceux-là. Je sais que tu vas parler avec un expert un peu plus tard.
Oui, exactement. Je le rappelle, on va parler aux alentours de 13h05 avec Dave Poitras, qui est directeur stratégique et scientifique pour le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Donc, restez avec nous, ça va être très intéressant comme conversation.
Parce que la radicalisation, c'est un processus, hein. Les gens ne se réveillent pas du jour au lendemain puis ils sont radicalisés. Mm-hmm. Il y a vraiment un processus. Puis quand on le comprend, on est plus à même de combattre le phénomène. Moi, ma réaction hier face à l'attentat, c'est que ça me faisait penser à Polytechnique.
Oui, vraiment.
L'attentat de la Polytechnique en 1989, où des femmes ont été ciblées parce qu'elles étaient des femmes et que le tireur avait une haine. Il en voulait aux femmes et au féminisme.
Mm-hmm. Oui, puis je fais une parenthèse parce que moi, je l'ai fait avec mon garçon de 16 ans hier, puis je me souviens que mes parents l'ont fait avec moi à l'époque à 10 ans parce que je l'ai déjà raconté. Chez mes parents, c'était l'actualité en continu tout le temps à la télévision. Et je me souviens quand il y avait eu justement le drame de la Polytechnique, ben, mes parents écoutaient les émissions spéciales, puis ils m'avaient expliqué ce qu'il en était, puis les motivations de l'homme, puis ils m'avaient expliqué qu'il ne fallait pas que je tombe dans ces motivations.
Quand t'es jeune puis qu'on t'apprend ça pour la première fois. Moi, à Polytechnique, j'étais jeune, là, j'avais 5 ans. Là, mm-hmm. Fait que ma mère m'a pas dit, il se passe ça, j'étais trop jeune. Mais au fur et à mesure des commémorations qu'il y avait puis des reportages, à un moment donné, elle m'a dit oui, elles ont été attaquées parce que c'était des femmes. Pis c'est comme si j'avais même pas le dossier dans ma tête pour comprendre ça. T'sais, moi, j'étais née dans un milieu où les femmes, tu te faisais pas dire que tu peux faire ou pas faire quelque chose. C'est un choc. Donc, ce qu'on a vu hier, ben, ça nous fait penser à ça. Le manifeste, comme tel, il y a beaucoup de confusion. C'est un peu difficile. On dirait que ça ne rentre pas dans toutes nos petites cases dans notre tête.
De trouver le fil conducteur, là, il y a tellement de choses.
Souvent, ce genre de personnages-là vont être très à droite, mais lui, il s'en prend aussi au capitalisme et au libéralisme, ce qui fait que... Puis en même temps, ce serait dur de dire que c'est un marxiste. Là. C'est pas, politiquement, c'est un peu confus.
Tu sais, j'ai feuilleté le manifeste aussi. Puis par moment, il y a un discours communiste, littéralement.
Ouais.
Là.
Un peu à la Una Bomber aux États-Unis, à un moment donné, qui rejetait le système capitaliste et de libéralisme. Il y a des similitudes à voir.
C'est comme si l'homme en question en voulait contre la société au complet.
C'est ça.
Puis à partir de ce moment-là, il ciblait des personnes ou des groupes d'individus, comme par exemple les groupes de sociétés pornographiques ou les PDG de grandes entreprises, les femmes entre autres.
Les policiers.
Des groupes qui
sont complices.
Entretenaient.
Exact.
Cette société-là qui était contre lui.
Absolument. Parce que quand on lit ce manifeste, ce qu'on voit, c'est que lui considère, comme c'est beaucoup dans le mouvement incel, que la société est sur le bord de l'effondrement, de toute façon. Et ça, c'est à cause de la perte des valeurs traditionnelles, de la famille comme socle de la société.
On était donc bien mieux quand on faisait 12 enfants, la femme restait à la maison.
Ben, j'imagine que pour certains hommes, ça devait effectivement être mieux.
Parce que là, il y avait un homme pour une femme, c'est le mariage forcé.
Exactement. Puis les femmes n'avaient pas leur mot à dire. Puis pendant longtemps, on n'avait aucun droit. La vision du monde de ces personnes-là radicalisées, c'est qu'on serait beaucoup mieux dans une société où les femmes retourneraient à la maison.
Mm-hmm.
Leur tâche principale serait d'enfanter, de s'occuper des enfants et les messieurs, eux, vont travailler. Donc, c'est très lié aussi à une solitude. Ils se sentent rejetés par la gente féminine. Ils voient les femmes comme étant des manipulatrices. Ils vont les dépeindre comme des personnages cruels qui font exprès de faire souffrir certains hommes de la société qui ne remplissent pas leurs critères, que les femmes ne trouvent pas attirants, que les femmes ne trouvent pas assez riches comme telles. Et ce que...
C'est pas à eux de changer, mais au reste du monde.
Absolument.
C'est tout à fait logique.
Et dans le fond, dans son manifeste, il fait principalement deux choses. La première des choses, c'est qu'il fait une espèce d'appel pour les autres personnes incelles.
Oui.
Je comprends votre souffrance. Je me fais le porte-parole.
Aucun sens.
Et le deuxième élément, c'est un appel à la violence. Donc, kill them all. C'est comme ça qu'il le formule. Il invite les gens qui ont la même souffrance que lui a commencé à faire des tueries de masse comme ça pour renverser ce système qui désavantage finalement ces jeunes hommes qui se sentent bien frustrés.
Non, c'est très, très questionnant de voir que ces mouvements-là prennent de plus en plus d'ampleur dans la société. Je sais même, vous avez des gens proches de vous que vous dites « Hey, mais non, le discours commence à changer, ben n'hésitez pas à intervenir. » Parce qu'il ne faut pas que les gens se rendent jusque-là. Je le répète.
Il y a des outils, d'ailleurs, hein, qui sont disponibles. Comment ouvrir des discussions avec des gens qu'on a l'impression qu'ils sont en radicalisation? L'expert à qui tu vas en parler pourra certainement le préciser.
C'est clair. Puis, je le répète, souvent, on va dire, quand il y a une tuerie de masse, « Ah, c'est le port d'armes, ah, c'est telle chose. »
À chaque fois qu'il y a un attentat ou un événement comme celui-là, je me dis qui va prendre ça sous la lunette déjà de ce que tu penses et l'exploiter pour pousser un agenda politique. Puis c'est un peu normal de le faire, mais si tu es contre les armes à feu, tu vas dire, voyez, c'est parce qu'il y a des armes à feu. Si tu es pour les armes à feu, tu vas dire, ah, ben c'est pourtant, on a tout interdit les armes à feu avec Justin Trudeau, puis il y a encore des attentats, fait que ça marche pas. Il faudrait faire attention à
ces agendas politiques-là.
Pour essayer de vraiment comprendre les causes qui ont mené à ça, parce que sinon, on pose pas les bonnes solutions.
Exactement.
De toute façon. Et ça fait quelques années que ça commence à être sur le radar des gouvernements, d'ailleurs, parlant de solutions. Le premier moment où ça a été vraiment mis sur le radar, c'est une attaque qui a eu lieu en Ontario. C'est en 2020. C'est un gars qui est rentré dans un spa, il a attaqué deux femmes à coups de couteau. Il y en a une qui est décédée.
Avec 42, 48 coups de couteau.
Ça dénote une certaine colère, effectivement. Puis l'autre femme a réussi à s'enfuir. Puis je voyais qu'en France, le masculinisme incel a été classé menace terroriste il y a quelques jours. Donc, ça vient d'être considéré comme une des menaces terroristes qui existent dans nos pays.
Ben, au Canada, c'est déjà reconnu comme étant menace terroriste également.
Et là, il va falloir se poser des questions sur les médias sociaux.
Ben oui, parce que c'est
sur les algorithmes de médias sociaux.
Sur le Far West.
Sur ces groupes-là, justement, ces chambres d'écho-là qui se créent parce que une des composantes, sinon la composante majeure, c'est là.
Ben oui.
C'est que, tu sais, puis pas plus tard qu'un matin, moi, Nathan Meilleur me disait, hey, j'ai fait plein de recherches sur le mouvement incel hier pour essayer de le comprendre. Tout le kit. Ce qu'il dit, il dit, là, tabarnache, mon algorithme est scrap.
Fait
que, tu sais, Nate, un gars sain d'esprit qui a animé ça à Boulevard
se fait
et à Weekend,
ce contenu-là.
Va se faire pousser ça. Donc, imagine quelqu'un qui est en train de se radicaliser, comme cet homme-là. D'ailleurs, Fred, non, on n'aura pas peur des mots. Là. Fred, il dit, écrit, dites-le, ces incels-là, c'est des hosties de coucou dangereux. En effet, sont dangereux parce que la radicalisation les amène dans cette zone danger-là.
Ben, lui d'hier, je pense qu'on peut dire qu'il a l'air coucou, je suis d'accord. Mais il faut faire attention de ne pas se faire un stéréotype que c'est tous des fous furieux puis que vous allez les identifier facilement. Parce que la radicalisation incel, ça peut des fois avoir l'air... Ça peut être votre collègue, ça peut être votre cousin. Ça, c'est pas nécessairement des fous furieux.
Exactement.
Là.
Mais pourquoi je parle des algorithmes sur les médias sociaux, c'est que ça part de là. Tu consommes un produit, tu démontres peut-être un certain intérêt, mais tu n'es pas sûr encore. Mais là, on fait juste te le pousser.
Ça part de là, mais c'est clairement un accélérant. C'est comme l'essence qu'on met sur une petite étincelle des fois qu'il y a chez quelqu'un. Puis pour moi, c'est sûr que la solution, de s'attaquer à toute la question des médias sociaux. Bon, premièrement, l'accès chez les jeunes, ça fait débat, puis moi, je pense que c'est une très bonne chose. On est plus influençable, évidemment, quand on est jeune. Ça va être aussi de prendre conscience de ça, comme parents, comme personnes qui font de l'éducation auprès des jeunes, parce que quand on ne comprend pas un environnement, on n'est pas capable d'aider les plus jeunes
en plein ça.
À s'équiper pour faire face à ces éléments-là. Sécurité publique, le droit doit s'adapter aussi. Souvent, la justice est toujours, j'ai envie de dire, toujours un petit peu en retard sur les phénomènes de société. Donc, il y a vraiment une discussion à y avoir autour de ça.
Les enquêtes policières aussi, les renseignements secrets, il va tout falloir qu'ils s'adaptent justement pour combattre de plus en plus ça. Moi, c'est pas mêlant. J'aurais une solution bien simple. Je forcerais les médias sociaux à pousser des algorithmes autres. Tu lis des textes incel, m'a poussé des textes à parité.
Des services, oui, c'est ça. Puis des services d'aide, ça, c'est très bien.
Exactement. Tu sais, je pousserais ça comme ça pour que là, à un moment donné, la personne fasse « Ah, OK, regardons ça, cette opinion-là. »
Malheureusement,
aussi.
Les médias sociaux, c'est des entreprises privées qui veulent faire de l'argent. Donc, si t'aimes quelque chose, je vais te le pousser. Toutes les publicités vont tourner autour de ça. Pourquoi? Parce que je veux du clic, parce que je veux de l'abonnement, parce que je veux que tu achètes des produits.
En
Donc, malheureusement, le bien commun, ça passe bien, bien loin dans leur priorité.
L'auditrice nous a amène un bon point ici par texte. Elle dit le problème, c'est que les propriétaires des réseaux sociaux veulent faire de l'argent.
Eh bien, voilà.
Puis pour eux autres,
exactement
c'est payant.
Ce que je pense.
Puis là, c'est payant d'avoir ces chambres d'écho-là. Puis
ah,
c'est payant
foutent,
d'avoir.
Là.
Ils s'en foutent,
soyons
eux autres.
Soyons honnêtes, là. Ils s'en foutent complètement. Là.
Vraiment, ils n'ont aucune préoccupation morale et sociétale. Matière de circulation?
Oui, juste vous signaler présentement sur le pont de Québec, il y a une panne qui bloque une voie sur deux. On nous dit que c'est terminé. C'est en direction sud que ça se passe. C'est terminé, sauf que le mal est déjà fait. Il y a un gros ralentissement dans le secteur. C'est du pare-choc à pare-choc jusqu'à Boulevard Laurier.
Merci beaucoup. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101. C'est l'émission On en jase. On est dans le caucus avec Antonine Iaccarini. Mon dernier caucus de la saison
ben
avec
oui.
toi, Anto. T'en fais un jeudi, puis par la
t'es
suite,
même
on se revoit l'automne. Non.
Ben non.
Je vais être à l'île au coude.
Oui, c'est correct.
J'ai hâte.
Je
c'est
comprends.
Une belle place. C'est une belle place que j'ai découvert cette année. Puis,
c'est beau
on
comme
a tellement aimé, moi et ma conjointe, qu'on a dit ah ouais, on amène Oli et Gabou. Hey, normalement, on s'assinerait peut-être avec plus de virulence, mais j'ai pas le goût d'être virulent aujourd'hui dans les conseils.
Tu fais le doux.
Ouais, exactement. Mais tout ça pour dire qu'on passe de cette tragédie-là à Montréal à la livraison du livre bleu hier soir dans un conseil national du PQ de façon virtuelle.
Ouais.
Et là, je le précise de façon virtuelle, parce que si ça avait été dans une grande salle, avec tout le monde qui a payé ses chambres d'hôtel, je te dirais pas ce que je vais te dire. Mais là, de façon virtuelle, est-ce que peut-être notre futur premier ministre, Paul Saint-Pierre Plamondon, aurait pu user de jugement et dire « Savez-vous quoi? On le fera après la Confédération. Il y a eu un drame qui s'est passé à Montréal aujourd'hui. » On va laisser la place à ce drame-là. Les gens n'ont pas en tête de parler de séparation, puis on va en parler dans une semaine, deux semaines, quand ça se sera calmé. Mais ça, je me serais attendu à ça, d'un politicien guéri comme Paul Saint-Pierre Plamondon.
Je comprends, mais moi, ce que je comprends, c'est qu'il y avait pas mal d'impératifs qui rentraient en ligne de compte et que même si c'était virtuel, c'était quand même assez compliqué pour le PQ de déplacer cet événement-là. Puis effectivement, vu que c'était en virtuel, eux ont considéré que c'était assez, excusez-moi l'anglicisme, là, mais low-key, là, assez, ça passait un petit peu inaperçu, puis que c'était pas la grosse conférence de presse avec les feux d'artifice bleus puis tout ça. Ils se sont dit qu'ils allaient le faire parce qu'ils s'étaient engagés à le rendre public d'ici la fête nationale.
Ouais.
Donc, ils voulaient respecter l'agenda qui s'était fixé. Il faut le dire, le livre bleu sur l'indépendance, il y a pas mal de chapitres qui avaient déjà été dévoilés aussi. Là, c'est pas non plus la grosse annonce. C'est juste que le PQ voulait aussi évacuer en quelque sorte c'est quoi les bases du projet d'indépendance parce que ça a longtemps été un boulet, cette affaire-là. Moi, quand je travaillais au PQ, là, puis là, quand les journalistes se mettaient à nous demander s'il allait avoir une armée, puis quelle monnaie, puis comment le passeport allait, de quelle couleur il allait être et tout ça, là, on n'arrivait jamais à parler des politiques pour maintenant,
ouais.
Là, t'sais, pour qu'il intéresse le monde maintenant, qui n'est pas de l'hypothétique, peut-être, si on fait un pays. Donc, je trouve ça très en phase avec l'approche de Paul Saint-Pierre Plamondon, très assumée, très transparente. Puis l'autre défi avec le livre bleu, c'était... En même temps, on demande aux péquistes et aux souverainistes en général d'être très précis. Oui, mais là, on ne sait pas ce que vous voulez faire là, dans votre pays imaginaire. Mais quand tu es trop précis, c'est pas mieux. C'est antidémocratique. Si tu me dis, ben moi, mon Québec, il va être de gauche, puis il va être comme ci,
ben,
comme ça.
C'est drôle parce que la première question qui a été posée aujourd'hui aux journalistes, ben là, quelle va être la place de la population dans votre démarche? Mais je fais juste revenir sur le timing parce que moi, ce qui me perturbe, c'est que ça monte un homme qui dirige avec ses œillères. J'aime pas ça.
T'as l'impression qu'il est un peu... qu'il ne ressent pas la pièce autour de lui.
Ouais, c'est ça.
Je peux comprendre. T'as pas, je te donne pas complètement tort. Maintenant, je pense que c'est pas vraiment la fin du monde non plus. Je l'ai pas
moi
vu comme
plus,
un manque de respect.
Moi non plus, j'en fais pas une grosse bataille.
T'sais, s'il avait fait une sortie partisane, par exemple. T'sais, il y a une attaque vers un autre qui avait lancé une publicité négative. Là, j'aurais dit, hey, buddy, là, c'est vraiment pas le temps. Il faut être solidaire. Mais tu sais, c'est une annonce... C'est assez niché, ça s'adresse pas, c'est pas quelque chose qui va te faire gagner des votes, c'est quelque chose qui était déjà attendu, déjà prévu. Donc moi je leur pardonne.
Non non, mais c'est correct, puis je suis d'accord avec toi là, c'est pas la grosse affaire, mais j'ai trouvé que ça avait manqué quelque peu d'ouverture. Par contre, à l'intérieur de ce livre bleu là, il y a des choses intéressantes.
Ouais.
De un, on parle de l'armée et je te fais entendre Paul Saint-Pierre Plamondon par rapport à ça en conférence de presse ce matin justement pour présenter le livre bleu aux journalistes.
Bien, c'est-à-dire que ce sont les alliances qui protègent le Québec. Là. En ce moment, le gouvernement du Canada et son armée ne protègent pas à lui seul le Québec. Là. Si un adversaire du Canada décidait d'envahir quelque chose au Canada ou au Québec, on n'a pas du tout l'armée, là, je vous le confirme, pour se défendre. Par contre, on a des partenaires et des traités qui font en sorte que, en équipe, on arrive à protéger l'Amérique du Nord. Et on va devoir s'investir dans cette mission-là. Et donc, c'est pour ça qu'on rappelle que pour les questions d'adhésion à l'OTAN, évidemment que l'intérêt des États-Unis et du reste du Canada, c'est que le Québec demeure protégé. Là, il n'y a pas de scénario où les États-Unis vont se dire « on va laisser le Québec sans protection » alors que la Russie est juste de l'autre côté de l'Arctique.
Ça m'a vraiment épaté, je vais prendre ce terme-là, la façon qu'on a été précis avec la fameuse question de l'armée, parce que ça, c'est toujours une question. Les auditeurs nous posaient toujours cette question-là quand Paul Saint-Pierre Plamondon était là.
Puis moi, quand j'entends du monde dire « un Québec indépendant sera pacifiste », nous n'aurons pas d'armée.
Non. Et là, il a dit 5 % du PIB dans l'armée, on va récupérer avec la dette qu'on a pour le pays du Canada, on va récupérer nos bases. Les gens vont pouvoir être dans l'armée québécoise, mais ça ne sera pas une obligation. On ne dira pas « Hey, toi, t'es francophone, t'es dans l'armée québécoise. Tu vas pouvoir rester dans l'armée canadienne si tu veux. C'est juste que tu vas accepter de quitter le Québec, autrement dit. » Et puis pour le reste, ben dire « Hey, on va créer des alliances, puis ce que dit à la fin, c'est pas fou, là, t'es en disant, voyons, Grimm, les États-Unis ne laisseront pas tomber.
La logique.
Fait que je trouve que c'est très logique. Ben, alors, pour une problématique très complexe, une question qui revenait tout le temps, ça a été d'une précision chirurgicale. Faut que je lui donne, c'est un gros point gagnant, ça.
Ouais, puis c'est toujours l'équilibre. C'est que, oui, il faut qu'il soit précis, mais il ne peut pas couler tout dans le béton.
Non, exactement.
Non plus. Donc, tu fais des fondations, mais tu ne peux pas ériger les murs, mettre la peinture sur les murs, la toiture, les rideaux. Il faut que tu dises, écoutez, je vais vous rassurer, voici comment on voit ça. Puis dans le livre bleu, là, il fait des centaines de pages en passant. Là, je ne veux pas finir
c'est 524 pages.
Mais tu sais, il explique qu'est-ce qui va se passer étape par étape. Puis honnêtement, c'est un travail qui est rigoureux. Puis je sais, pour avoir parlé à quelques personnes qui ont travaillé dessus, qu'il y a eu pas mal de nuits blanches là, qui ont été passées là-dessus. T'sais, on demande pas aux fédéralistes d'autant de précision.
Non, en effet.
On est d'accord?
Autre point que j'ai trouvé hyper positif, c'est la fonction publique.
Oui.
Depuis le temps, et ça, je pense que la très, 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 très grande majorité des auditeurs de Boulevard puis réagissent au 418-971-1021, nous trois autour de la table, tous les politiciens qu'on reçoit ici à Boulevard, on en reçoit de tous les horizons, nous disent faut dégraisser l'État public. On cherche toujours une façon de le faire.
QS ne dit pas ça, là, mais en tout cas.
Oui, c'est vrai. Je suis venu pour le dire, mais ça n'allait pas dans mon momentum.
Excuse-moi,
là.
J'ai cassé ton momentum.
Hey, t'as bien fait de casser mon momentum parce que j'y ai pensé. Et là, c'est tellement concret parce que c'est, écoutez, il y a plein de ministères qui sont en double.
Ben
on va fermer ces ministères-là. Mmh. Puis après ça, ben dépendamment de comment Ottawa va travailler avec sa fonction publique aussi, parce que là, il y a des départs à la retraite prématurée à Ottawa, il y a des coupures de postes, il y a ci, il y a ça. Ben là, on va évaluer puis on va dire, bon, ben toi aussi, on peut t'offrir un forfait de départ.
En fait, c'est que ça donne l'occasion, je trouve, de faire un dégraissage.
Et puis un méchant,
c'est parce que c'est
là,
une refondation. Puis je comprends que ça peut donner le vertige à certaines personnes. Hey, c'est comme tu me dis demain matin, faut que tu déménages. Là, je suis comme, ah, yoï, ça me tente pas. Là.
Ouais,
mais après, t'es plus content. C'est une occasion de revoir des vaches sacrées aussi. T'sais, la lasagne administrative, ben là, on va pouvoir peut-être enlever une coupe de couches, effectivement. Les dédoublements avec le fédéral, c'est un argument important pour le mouvement souverainiste. Puis tu sais, à la fin de la journée, là, faire l'indépendance, là, ça va être des années de négociations.
Ben oui.
Il faut être prêt à ça. Là. Donc, c'est pas possible de pré-tout régler. Parce qu'il y a des choses qui sont liées à une négociation qui aurait lieu avec le fédéral. Moi, j'ai toujours cru que le fédéral brassait des épouvantails avant un référendum, puis que tant que l'indépendance n'est pas faite, et c'est normal. Mais une fois qu'elle serait faite, les amis, là, l'attitude changerait. C'est pas vrai que le Canada partira en guerre contre le Québec. Non seulement le Canada a intérêt à ce qu'il y ait une relation saine et stable avec le Québec, les États-Unis aussi.
Ben oui, ben,
et ça, c'est un point que Paul Saint-Pierre Plamondon amène souvent. Il faut arrêter de penser là, que tout à coup, on serait vulnérable et qu'on se prend envahir. C'est pas ça qui arriverait.
Les liens économiques, les liens d'affaires vont demeurer. Par texto, vous êtes plusieurs à commenter. Ben, je dirais que Paul Saint-Pierre Plamondon n'a pas la cote avec la souveraineté à l'heure actuelle auprès des auditeurs de Boulevard. Ça représente, je pense, une bonne proportion de la situation. On parle ici justement des investissements nécessaires en défense pour tenir compte du changement d'ordre international. On parle de coûts de rachat des bases. Donc, merci. Continuez à interagir au 418-971-1021. Moi, il y a une chose qui m'a fait sourciller dans le livre bleu. C'est notre propre monnaie.
Ouais.
Parce que là, je me suis dit, Puis là, je vais te donner l'exemple de l'Union européenne. T'sais. Je me suis dit, si on crée notre propre monnaie, ça veut dire que le dollar canadien puis le dollar québécois, là, je vais l'appeler comme ça,
ouais,
il tombe. Puis ça, ça nous rend plus pauvres.
Ouais, puis ça, c'est une affaire souvent qui va refroidir les gens. C'est aussi quand le PQ nous dit qu'on va tellement économiquement et financièrement être mieux indépendant. Il y a des choses qui seraient mieux, des choses qui seraient moins avantageuses. Moi, je pense sincèrement que quand un pays devient indépendant, après, ça ouvre la porte à des négociations davantage d'égal à égal, notamment sur des monnaies communes, des accords de libre-échange et de libre circulation. Tu sais, des fois, on fait le lien avec l'Angleterre qui est sortie, le Royaume-Uni qui est sorti du Brexit, puis dire que c'était bien épouvantable comme décision. Mais ça ne se compare pas. Puis le Québec pourrait faire des alliances par la suite. Tu sais, si tu dis, bon, on va avoir notre propre monnaie, parce qu'il y a aussi des arguments qui sont à l'effet que le pétrole... disons, déforme un peu notre régime monétaire au Canada, puis que ça fait en sorte que, par exemple, quand le dollar était très élevé à cause qu'il était boosté par le pétrole albertain, bien, ça désavantageait systématiquement notre secteur manufacturier. Donc, le Québec n'était pas tant avantagé d'avoir un dollar canadien aussi fort, finalement. Donc, c'est des débats de banquiers, là, puis on n'est pas banquier ni toi ni moi, ni économiste. Mais bref, il y a des arguments pour, des arguments contre. Moi aussi, je me disais, pourquoi pas avoir le dollar canadien? Puis c'est après ça, je me suis dit, bien, négocions-le après. Mm-hmm. Si on veut avoir une monnaie commune, tu sais, les pays européens, là, avant d'embarquer dans l'Union européenne, c'était des pays indépendants.
Bon, oui,
t'as ta voix au chapitre, t'as ton propre micro, puis t'as ta chaise.
Ça a négocié en grime. Là.
Oui, ça n'a pas été facile.
Non,
sont arrivés à la conclusion que les avantages dépassaient les inconvénients. En ce moment, il y a plein de pays qui remettent ça en question, les partis d'extrême droite, notamment dans plusieurs pays qui sont en montée en Europe. Il n'y a rien de simple, là.
Non.
OK?
Puis la seule chose que j'ai pas vu passer dans les médias, parce que là, tu comprendras que j'ai pas lu 527 pages, moi non plus, hier soir, c'est j'ai hâte d'entendre parler du point du développement de nos ressources naturelles. Parce que je pense que ça va être un must pour justement pouvoir créer cette richesse-là au Québec. Là, je suis pas mal convaincu
de ça.
C'est
des débats... ça à avoir après l'indépendance. On peut regarder ce qu'on a comme richesse puis après ça, l'évaluer puis de se demander si on a les reins assez solides. Mais c'est pas au livre bleu, à mon avis, à déterminer déjà si on va aller chercher le pétrole d'Anticosti ou pas. Ça, c'est des partis politiques qui vont faire des élections puis qui vont débattre.
Parce que c'est le point justement d'un auditeur pendant que je le disais, qui disait hey, « Écoute, on est déjà endettés puis là, le Québec, on veut jamais développer nos ressources naturelles. À un moment donné, il va falloir les développer. » Je suis très, 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 très d'accord avec ceci. Hey, on termine avec des candidats parce que là, hier, c'est toi qui m'as envoyé ça. Anne-Marie Laroche, qui se présentait dans Vanier-les-Rivières pour le PQ, a dit « OK, c'est assez, je m'en vais ». Puis là, je me suis dit « Est-ce que c'est, je ne sais pas comment je peux bien l'appeler, là, ces circonscriptions-là, mais tu sais, c'est... ces chefs de circonscription, là, comment qu'on appelle ça en langage politique?
Ben, il y a
là?
Les exécutifs de circonscription.
Les exécutifs de circonscription. Coudonc, c'est-tu comme ce que j'ai vécu quand j'étais dans le CA du hockey Charlebourg? C'est-à-dire que chaque association veut jamais travailler avec l'autre parce que moi, en bas, c'est différent. Parce que moi, là, à Longueuil, c'est pas pareil. Ouais, mais là, comprends-moi, à Beauport, c'est pas comme Charlebourg parce que, écoute, l'avenue Beau-Royal, c'est complètement deux situations différentes quand tu traverses Beauport, Charlebourg. C'est la même chose, tu sais. Y a-tu ce petit monde-là qui veut son petit pouvoir? Puis là, ouais, mais moi, Anne-Marie Laroche, je la voulais pas. Fait que je vais la faire chier jusqu'à temps qu'elle parte parce que c'est pas la mienne.
En fait, j'ai pas la réponse à toutes tes questions. Puis j'ai trouvé ça bien mystérieux. Okay. D'abord, juste préciser qu'elle n'était pas encore candidate. Elle était candidate à l'investiture. Une investiture, c'est l'acte qui fait qu'on désigne un candidat dans une circonscription. Donc, il peut y avoir plusieurs candidats à l'investiture. Puis après ça, les membres vont voter et il va y avoir une candidate ou un candidat qui sera finalement le candidat officiel. Donc, Mme Laroche, elle se présentait à l'investiture et elle a été seule pendant un bout de temps.
Mm-hmm.
Et là, c'est comme s'il y a des gens qui voulaient pas, soit que ce soit elle ou qui voulait qu'il y ait une course.
On va trouver quelqu'un.
Rien que pour dire, tu sais, puis...
Rien que pour la faire suer un peu.
Vanier, c'est pas gagné pour le PQ, là, tu sais.
Non, pas du tout, là.
Puis, là, t'as une bonne candidature féminine. C'est une fille qui a un joli CV. Je pense qu'elle est experte dans le domaine de la santé. Là, j'ai pas tous les détails parce qu'elle n'est pas devenue candidate. Fait que là, son CV n'était pas sur le site du PQ.
Imagine-toi, c'est la sœur du gars qui a évalué mon stage.
Ah bon?
Hey,
ça, c'est un fun fact.
T'imagines, hein?
OK. Elle a expliqué, Mme Laroche, que dans le cadre d'une publication sur Facebook, que son investiture a été atypique et éprouvante. Elle ne veut pas planter le PQ. Tu vois que c'est une vraie militante.
Ouais, ouais.
Parce qu'il y en a d'autres qui sont sortis et qui ont dit que c'était bien épouvantable. Je pense à Réal Ménard, là, qui est un ancien ministre péquiste dans le coin de Montréal. Nathalie Lassalle, dans un comté dans les Laurentides. Marjolaine Veilleux, à Rivière-du-Loup, au Bas-Saint-Laurent, qui ont tous dénoncé des investitures puis des processus qui étaient un peu tout croche, où il y avait l'impression que le national voulait pas que ce soit les candidats, que le chef tirait un peu sa couverte, etc. Mais Mme Laroche, elle ne plante pas le PQ comme tel. Elle dit juste que à deux reprises, à la toute dernière minute, minuit moins une, il y a un candidat qui s'ajoutait. Donc là, ça retardait le moment où elle était investie, parce que là, on disait, ah, ben, il va y avoir un vote. Puis là, le candidat se retirait. Et là, une deuxième fois, c'est arrivé. Là, à un moment donné, elle s'est dit, hey, ça va faire le niaisage. J'ai l'impression, là, c'est
ben
pas
oui.
ça que c'est pas ça, ces mots, mais moi, c'est les mots que j'aurais utilisés. Et elle a décidé de se désister.
Assez spécial que la petite députation-là du PQ dans Vanier-les-Rivières agisse de cette façon-là, parce que c'est une véritable course à trois. PQ,
ben oui.
CAQ et PCQ, tu as besoin d'unité pour gagner. Tu as une bonne candidature. À l'heure actuelle, la CAQ, candidat n'est pas encore connu parce que Mario Asselin, qui est le député, quitte. C'était une grosse pointure dans Vanier-les-Rivières. Là. Mario Asselin, ça fait très mal à la CAQ. Le PCQ n'a pas encore de candidat. Ils avaient présenté Donald Gagnon, qui est maintenant le chef de Québec 2.0 au municipal, l'ancien parti de Sam Hamad. Donc, on attend la candidature là aussi. Et du côté du PLQ, ben, c'est l'ancien de la Sûreté du Québec qu'on vous a fait découvrir la semaine dernière, Charles Hudon, qui est là. C'est quand même une candidature d'envergure, mais le PLQ est à 14%
là, c'est pas gagné pour le PLQ non plus.
Ben non, parce que c'est 27, 26 et 24. Nous, on est toujours dans les marges d'erreur, vous comprenez? Fait que c'est juste une véritable lutte à trois. Vanier-les-Rivières est à prendre. Fait que je comprends pas ces petites chicanettes-là, moi.
Ben, moi non plus. Puis, bon, le PQ reçoit beaucoup de CV. On nous dit qu'ils ont reçu là, 1000 CV.
Ouais.
Là, fait que, évidemment, ils ont le choix. Il faut toujours trouver l'équilibre entre laisser les processus démocratiques se faire dans les comtés, mais... Des fois, le chef a le goût aussi de s'entourer de certaines personnes.
Ben oui.
Et moi, je le comprends. Tu sais comment je défends toujours l'establishment, Jeff?
Non, mais oui. Oui, je le sais, mais là-dessus, je suis d'accord avec toi. Tu sais, à un moment donné, là, le chef, il va aller à la guerre avec ses soldats.
Ben,
là.
C'est ça.
Et peux-tu choisir ses soldats, s'il vous plaît?
T'es? Puis, en même temps, justement, on parle souvent de parité, de diversité. Ben, si c'est juste les membres qui décident par comté, tu as moins une vision d'ensemble. Fait qu'il faut trouver un équilibre. Mais dans ce cas-ci, j'ai trouvé ça un peu étrange. Puis, c'est tellement dur de convaincre des femmes d'aller en politique.
Ben, exactement.
Elles, expérience. Là.
Parce qu'au PLQ, on a des difficultés là, présentement à recruter des femmes, c'est ce que tu me disais.
Écoute, j'avais une impression. Tu sais, des fois, tu as une impression, mais tu dis, je vais aller vérifier puis je vais faire des calculs. J'ai regardé les candidatures que Charles Milliard, nouveau chef du Parti libéral, présente depuis quelque temps. Puis je me disais, c'est-tu moi où il y a beaucoup de gars?
Ouais.
Ça me semble beaucoup des gars. Puis tu sais, le Parti libéral, là, ils ont passé 7 ans à dire que c'était un boys club, la CAQ. Alors que la CAQ avait fait un bon effort de parité, je vais vous le dire. Donc, je me suis dit, je vais aller voir. Je me suis fait un petit tableau. J'ai toutes sorti les candidatures annoncées qui étaient sur le site web.
Ouais.
Donc là, il y en a une ce matin, je ne l'ai pas compté, là, qui a été annoncée sur Instagram, c'est pas rendu sur le site. J'ai déterminé si c'était des gars ou des filles. Bon, là, peut-être que je peux me tromper, mais je pense que j'étais pas mal, j'avais les bonnes données. J'ai regardé par comté si c'était un comté prenable ou pas. Donc, je me suis fiée sur Québec 125 et il y a une certaine subjectivité là-dedans, mais tu sais, Québec 125, c'est assez bien classé si c'est enclin PLQ ou pas. Et ce que j'ai vu, c'est que sur 50 candidats confirmés, il y a 20 femmes. Donc, on est vraiment dans la limite de la parité, là, c'est 40 % de femmes. Mais attention, là-dessus, il y a déjà un bon paquet de députés déjà élus dans des comtés sûrs libéraux. Donc, tu sais, par exemple, Madouanika, cadet d'Ambroise-Sauvé, ça, ça va passer,
ouais, je comprends.
C'est sûr. Mais ça, c'est toutes des femmes qui ont été recrutées par d'autres chefs.
Fait que Charles Milliard n'est pas capable de recruter des femmes pour les mettre dans des comtés où on se dit, ils ont des bonnes chances de gagner.
Donc, en
c'est
gros,
ce que tu me dis.
Moi, là où j'en suis, puis c'est pas fini, là, il y a 50 candidats sur 125, il a recruté 2 femmes dans des comtés prenables.
Ça va être à suivre.
T'sais, c'est pas beaucoup. Fait que là, ben, peut-être qu'il va en représenter plein. C'est là, vous allez me dire, pourquoi tu le fais pas pour les autres partis? Je vais vous expliquer pourquoi. Ben, le PQ, je vais le faire.
Ben, okay? Oui, puis là, premièrement, la CAQ, ils en ont pas encore.
Ben, la CAQ n'a pas de candidat. Fait que quand
ils ont
même...
présenté une femme!
Oh, elle est 100
%! Elle n'est pas dans un comté sûr, par exemple.
Non, pas en tout, effectivement. Et QS, comme tu sais, ont déjà dit qu'ils allaient présenter des femmes dans des
ben
comtés
oui,
sûrs. Eux autres, même, ils se tirent un peu dans le pied. Fait que j'ai pas besoin de
défier
côté QS.
Eux autres font l'inverse. C'est quand il y a une vedette qui arrive, ils disent « Ouais, ça arrive quoi? On va mettre un homme. »
Mais pour vrai, ça soulève l'enjeu du recrutement des femmes.
Ouais.
Puis souvent, ils vont recevoir plus de CV de gars. Donc, nécessairement, tu as plus de choix. Ça demande un effort.
Vraiment.
S'ils font pas d'effort dans les prochaines, dans les prochains mois, là...
C'est
eux qui vont devenir le boys club.
Moi, on va surveiller ça. Puis honnêtement, j'en ferai pas tant de cas, Mais moi, dans la vie, je veux qu'on soit conséquent. Je veux que les bottines suivent les babines. Fait que si depuis 8 ans, tu traites la CAQ de Boys Club, tu t'es donné l'objectif de le réaliser. Je termine avec ça. Vanier, les Rivières, sais-tu quoi? Je pourrais me présenter au PQ ou à CAQ si je voulais. Je connais bien le comté.
Ben, écoute.
C'est proche de la Basse-Ville.
On aimerait mieux pas, Jeff. On aimerait mieux te garder.
Non, mais je suis ouvert. Si jamais Paul Saint-Pierre, Plamondon ou Christine Fréchette veulent m'approcher, je suis ouvert. Moi, avec l'armée québécoise maintenant, peut-être que je serais en faveur du livre bleu.
Tu es ministre de la Défense.
Mais ceci dit, c'est parce que moi, pourquoi je dis ça aussi, c'est parce que c'est facile. Moi, j'ai surveillé avant mes médias sociaux.
Ah, fait que t'as rien
j'aurais pas un ménage à faire. Tu sais, j'ai pas une espèce d'affaire, un poste qui traîne de pro-nazi. J'ai
ben,
pas ça.
Non.
D'anti-envortement, j'ai pas ça. Attends, on parle-tu de la chambre d'écho du PCQ? Bon, si vous voulez voter pour une chambre d'écho,
tu
vous avez votre parti.
Tu pourras pas te présenter pour le PCQ, je pense.
Par contre, des
autres... Non, je pense qu'ils m'aiment pas le PCQ. Mais moi, je suis à la course à ces chambres d'écho-là pour les années entières.
Ben,
c'est une de mes
missions. Je t'en viens dans un instant parce que je voulais répondre sur les chambres d'écho et moi, je suis 100% d'accord avec ton approche. Il y en a qui disent on devrait pas en parler, on devrait pas inviter des masculinistes. Moi, là, je considère que quand tu mets la lumière dans la face à quelqu'un puis tu demandes de s'expliquer, là, tout tombe
à
terre.
Ah oui, puis à n'importe quel masculiniste nazi anti-avortement qui veut se présenter à mon micro, ça va me faire un immense plaisir de vous anéantir.
Exact. Tu voulais dire, Mathias,
c'est comme ça que tu détruis une chambre d'écho.
Voilà.
Mais Jeff, si jamais tu te présentes, tes autres parties vont avoir du fun, par contre, à ressortir toutes tes fois où tu as été un peu bipolaire. Aujourd'hui,
sur la question nationale, c'est terrible.
Aujourd'hui, je suis un libéral. Je suis péquiste aujourd'hui.
Canada! Puis le lendemain,
ça, c'est quand
on
je vais revenir de Toronto.
Un pays.
Ben oui. Ça, c'est ça. Quoi qu'il y a, j'ai filé Canadien hier soir. Quand les Jays ont gagné 4-2, là
c'est la Coupe du Monde. Ça, c'est fou, Red. Okay, c'est une trahison supporter le Canada. Je te pose la question,
Anthony. Il n'y a pas d'alternative.
Supporter le Canada demain. Pendant la Coupe du Monde, même si c'est notre fête nationale.
Je vous adoube, vous avez le droit.
Mais j'ai juste dit que je ne porterais pas mon gilet du Canada. Vu que c'est à Saint-Jean.
Okay.
Je vais prendre pour le Canada, mais c'est la Saint-Jean-Baptiste, je ne mettrai pas mon chandail.
C'est une délicate attention.
C'est une belle délicate attention. Anto, honnêtement, tu sais à quel point j'aime faire de la radio avec toi?
Caroline, c'est la
fin. Ça a été une saison extraordinaire. On va se reparler à l'automne, évidemment, parce qu'on va continuer
sûr,
à collaborer.
Non,
moi non plus. Mais c'est vraiment un bonheur. Non seulement j'ai un bonheur à faire de la radio avec toi, mais en plus, je trouve qu'on partage des belles choses personnelles. Fait que je peux te considérer dans mon cercle d'amis. Et ça, pour moi, c'est précieux. Alors, merci pour cette belle saison.
Merci à toi.
Écoute, si j'étais un homme rempli d'émotions, je broyerais, mais j'ai à peu près jamais broyé de ma vie en faisant ça.
Si tu te mets à pleurer, je ne saurais pas comment réagir. ça va créer un malaise en onde. Alors, sourions et merci vraiment pour ces magnifiques discussions. Honnêtement, pour moi, le caucus, c'est un moment de bonheur. Parce que
vraiment.
Moi, ça, c'est exactement ça pourquoi je fais ce que je fais dans la vie.
Moi aussi.
Fait que ça coche toutes les cases. Merci,
c'est
Jeff.
Pareil, ça fait plaisir. Puis je te souhaite un bel été. On va se parler pareil, on va se croiser parce que tu vas être dans le retour cet été.
Exactement, tout le mois de juillet.
Exactement, ils nous ont séparés. Oh, Steven.
Je tiens à dire, c'est pas le départ d'Antonine. Est avec nous jeudi.
Ouais.
C'est Jeff qui part en congé.
Exactement, c'est moi qui pars en congé. Je suis en congé jeudi, vendredi. Je reviens par la suite pour deux semaines et je repars trois semaines en vacances.
Une dernière pour moi jeudi, mais après ça, je m'en vais.
Mais on va
au
se
retour.
Croiser. Tu vas rentrer dans le studio puis moi je vais sortir pendant deux semaines.
Je veux juste signaler quelque chose par rapport à ce qui s'est passé du côté de Montréal hier. Ça vient de sortir dans le Journal de Québec. Le tueur responsable de la fusillade venait de Lethbridge, qui est une municipalité du sud de l'Alberta. Et ce matin, il y a eu une opération policière à haut risque du côté de Lethbridge en Alberta. Les autorités locales n'ont pas voulu confirmer si l'opération était en lien avec les événements survenus à Montréal ou non. On craignait notamment que des armes se retrouvent dans la résidence où qu'on a dû intervenir. Des voisins ont été évacués. Selon certaines informations sur place, l'opération qui aurait débuté à 8 heures ce matin, l'escouade tactique et une équipe d'experts en engins explosifs qui se seraient notamment présentés sur les lieux. On devrait avoir plus de détails au cours des prochaines minutes.
Et par texto, on nous dit merci pour tous ces beaux midis. Bon congé, Jeff. Belle découverte, Antonine. Et on va être de retour, évidemment, à l'automne dans ce format-là avec l'émission Dans Jazz et le caucus. Anto, bon après-midi.
Bye.
Matt, nous, on reste en onde. On va revenir avec l'essentiel des nouvelles et des petites informations sur les travaux du tramway.
Dans Jazz, jusqu'à
OK, oui, on jase. Et à la météo, s'il vous plaît, voyez aller sur les plaines ce soir. Eh bien, ça va être une belle soirée. Ça va être nuageux. Mais il n'y aura pas de pluie, les amis. Peut-être une petite averse en fin d'après-midi, mais pour la soirée, c'est très beau. Nuageux, 12 degrés. Demain, mercredi, jour de la Saint-Jean, 20 degrés avec quelques averses qui vont débuter en mi-journée. Risque d'orage en après-midi. Jeudi, 25 degrés alternant soleil et nuages. Et c'est de la pluie prévue pour vendredi. Circulation, Mathias?
Oui, juste vous dire, présentement, 20 direction ouest, c'est toujours difficile, notamment en raison des travaux dans le secteur de Taniata. C'est entre Taniata et Président Kennedy. Là, c'est un ralentissement dans le secteur en ce moment. Capitale en direction ouest, à hauteur de boulevard de Lormière. Ça bloque depuis le début de la journée dans le secteur. Là. Ça remonte jusqu'à Robert Bourassa présentement. Leur ancienne direction sud, léger ralentissement pour prendre Capitale également. Et Charest, direction est, à hauteur d'Henri IV, il y a un ralentissement aussi. Il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021 par texto.
13h exactement sur Québec. Mathias, vas-y avec l'essentiel de l'actualité.
Oui, juste revenir rapidement sur la fusillade qui s'est produite hier à Montréal, parce qu'on a comme des nouveaux développements. Le présumé tueur responsable de la fusillade, c'est le Journal de Montréal qui rapporte ça au cours des dernières minutes, venait de Lethbridge, qui est une municipalité du sud de l'Alberta. Et ce matin, à Lethbridge, il y a eu une opération policière à haut risque. C'est ce qu'on nous apprend. Les policiers qui se sont rendus sur place, on ne sait pas si c'est lié ou pas à ce qui s'est produit hier à Montréal, mais c'est un drôle d'hasard. On craignait que des armes pourraient se retrouver au sein de la résidence dans laquelle on est intervenu. On a demandé à des voisins d'évacuer des lieux. Tout ça s'est produit vers 8h ce matin. L'escouade tactique et une équipe d'experts en engins explosifs qui étaient notamment sur les lieux. La mère des fillettes Carpentier, Amélie Lemieux, s'est entendue sur une indemnité avec la Sûreté du Québec. L'information qui est aussi rapportée par les médias de Québécois, par TVA Nouvelles. La mère qui s'est dite satisfaite du montant obtenu, les détails de l'accord qui ne sont toutefois toujours pas dévoilés. La police de Québec a trouvé hier le corps d'une femme dans un secteur boisé de Lévis. C'est une opération de recherche qui a eu lieu tout au long du fleuve, autant sur la rive nord que la rive sud. On a mis en place deux postes de commandement aujourd'hui, un sur le chemin Sainte-Foy, l'autre du côté de la rive sud à Lévis. On parle d'une mort suspecte et on a arrêté un suspect, un homme de 60 ans, qui va être interrogé pour différentes accusations qui pourraient être portées aujourd'hui. La victime serait une femme âgée d'une cinquantaine d'années. Le Parti québécois a dévoilé hier l'intégralité de son livre bleu, livre qui trace les bases d'un Québec indépendant, l'intégralité sauf un chapitre, celui sur les relations avec les Premières Nations. Dans ce dernier, on note notamment une armée québécoise, une monnaie et un passeport québécois, que le Québec autorisera la double citoyenneté, qu'on voudrait créer Télécommunications Québec ou encore qu'on voudrait élire un président du Québec de la République. Du Québec.
Tacito, point de presse, la Ville de Québec concernant l'avancement des travaux du tramway. Je dois avouer, Mathias, que j'ai circulé, je ne circule pas chaque jour dans les travaux du tramway, et même si j'ai embarqué dans un véritable dawa à Sainte-Foy, jeudi, il y a deux semaines, aux alentours de 5 heures l'après-midi, ça semble aller mieux qu'on pensait à l'heure actuelle. On n'a pas trop de textos qui rentrent des auditeurs. Et textez-nous 418-971-1021 s'il y a quoi que ce soit. Mais on n'a pas trop qui rentrent en disant « Ah, Stifi, t'es pas allé dans le trafic pendant deux heures à cause du maudit travaux du tramway. » On semble respecter les échéanciers. Je me trompe-tu en pensant ça?
Mais non, tu te trompes pas. Puis c'est un peu ça le bilan qu'on dresse du côté de la Ville de Québec. Tous les chantiers qui devaient débuter au printemps 2026 sont maintenant débutés là, dans le secteur de la Chaudière, la Montée-Mendel, sur quatre Bourgeois aussi, entre Pidouze et Duplessis. Les travaux sont commencés. Même chose pour Laurier. Donc, tous les travaux, on a démoli la passerelle Adrien Pouliot. Ça s'est très bien passé. Mm-hmm. Tous les travaux qu'on devait enclencher au printemps, c'est déjà commencé du côté de la Ville de Québec. Je tiens à dire, tout ce qui est René Lévesque, Première Avenue, les travaux qu'on se dit « Ah, ça va peut-être être un peu plus difficile », ça va venir avec le temps. Mais du moins, pour l'instant, avec la situation actuelle, le maire Marchand affirme que ça se passe bien.
On n'est pas en train de dire aux gens « c'est comme s'il n'y avait pas d'entrave ». Mais ce qu'on dit, c'est compte tenu de ce qui a été fait, notre capacité à prendre soin des gens fait en sorte que ça diminue les effets. On est satisfait de où on est. On est très satisfait d'où on est après 6 mois. Mais le travail n'est pas fini.
Bon, Mathias, sur le calme avant la tempête, parce que je me souviens, on en a parlé en onde, toi et moi, puis on s'est dit, hey, boy, on a planifié des travaux dans le secteur de l'Université Laval en pleine rentrée scolaire. Aïe, aïe.
Oui, des travaux sur René Lévesque, je viens de signaler, qui ne sont pas encore commencés. Mais dès la rentrée scolaire entre Miran et Hollande sur René Lévesque, ça va être circulation locale seulement, ce qui fait en sorte que René Lévesque, tu ne pourras plus faire un transit bord en bord comme il se fait en ce moment. Forcément, ça va créer des difficultés qu'on n'a pas en ce moment dans plusieurs secteurs de la ville de Québec. Donc, la question a été posée au maire Marchand. Est-ce que c'est un calme avant la tempête? Le maire dit que ça risque d'être plus compliqué, mais il n'irait pas jusqu'à parler d'une tempête.
On ne peut plus dire ça. Ce qu'on dit, c'est qu'il y aura une intensification des travaux. Donc, de plus grands défis pour nous pour communiquer, de plus grands défis pour nous pour continuer de mettre en place les mesures. Mais ce qu'on fait en sorte que plus le citoyen est informé, plus il va chercher cette information-là, mais plus il est capable de prendre des décisions. On pense qu'on est en train de mettre en place des mesures qui vont mitiger les effets. Il y aura des effets. On ne parle pas de tempête pour l'instant, mais il y aura des effets. Et en intensifiant les travaux, il y aura plus d'effets.
Je trouve que là, il nous prend un peu pour des valises. Hey, des travaux dans le secteur de l'université à rentrée scolaire, c'est déjà le dawa.
Puis
ça pourra pas être... T'sais, ça va être pire, là. T'sais, ça pourra pas être mieux que ce que c'était avant, là.
Ce qu'on nous a expliqué du côté David, parce que la question a été posée, est-ce qu'on demande aux universités, ben, pas à l'université particulièrement, mais au milieu scolaire, de peut-être essayer de revoir la manière que c'est enseigné? Parce qu'on sait que dans le secteur, ouais, c'est surtout des universités, des cégeps.
Donc, plus de cours en ligne?
C'est ça. Du côté David, on n'a pas fait la demande. Mm-hmm. On a dit, nous, notre travail, c'est autant pour les commerçants, autant pour les milieux scolaires. On s'assure de donner la bonne information. Puis à partir de ce moment-là, le milieu scolaire ou encore des commerçants vont savoir avec quoi ils vont devoir jouer. Eux autres, ce qu'ils disent, c'est on va fermer René Lévesque, on l'informe. À partir de ce moment-là, c'est au milieu de s'ajuster avec ce qu'on leur donne comme information,
ouais,
puis ce qu'on leur donne comme moyen d'ajustement.
Je suis quand même assez d'accord. La demande avait été faite aussi pour le temps présentiel pour les fonctionnaires. Bon, là, cet été, ça va être appliqué dans plusieurs ministères à une journée seulement de présence au travail. On verra. Mais tu sais, j'ai de la misère à être confiant.
Est-ce que l'Université Laval, ça pourrait être une décision de faire plus de cours en commodal que ce qu'il y a actuellement? Donc une formule à la fois en présence et en ligne.
Le personnel administratif plus en télétravail. En effet.
On verra.
Ça peut être des pistes de solutions. Hey, il y a un beau texto qui est rentré, 418-971-1021, en disant, ben je les vis pas, moi, les travaux. Je vais plus dans les secteurs des travaux. Puis là, ça me fait penser aux commerçants. Il y en est quoi des commerçants? Parce que hier, dans le retour, la gang du retour a très bien fait. Ils ont fait jouer l'extrait motif de Carl-Emmanuel Picard, qui explique qu'avec son bar lanti, il y a des difficultés. Les bennes ne pourront plus se stationner en avant pour déloader. Donc, un extrait très motif qui est disponible sur notre blvd.fm, soit dit en passant. Puis je trouve toujours que le maire là-dedans, c'est comme « Ah, mais non, mais on fait notre travail, on les rencontre. » Caroline, il y a un manque de sensibilité du maire. C'est frappant pour moi quand je l'écoute.
Puis jusqu'à maintenant, j'ai pas le choix de dire, par contre, quand on écoute les commerçants à la pièce, quand ils rencontrent la ville, en général, ça se passe bien.
Ça, t'as raison. En général, on va prendre l'exemple de l'atelier sur Grande Allée.
On met bien les mesures en place en général. Par contre, à certains moments, ça s'est senti. Bruno Marchand a eu l'air de manquer de sensibilité envers les commerçants. Par exemple, quand il disait « des commerces vont fermer,
ben,
mais
ça.
D'autres vont rouvrir ».
C'est le poumon de notre ville, nos commerçants, puis on veut que les gens se lancent de plus en plus vers le commerce local. Mais pour ça, ça prend des commerces en santé.
Puis dans le retour, il s'était fait questionner par Denis en lien avec ça, avec des fois qu'il disait justement « des commerces vont fermer, mais c'est pas trop grave, d'autres vont ouvrir ». Il a dit qu'il voulait pas que ce soit perçu comme un manque de sensibilité ou autre. Ça, c'est hier.
Ouais.
Tout à l'heure, je vous laisse entendre un échange entre Danny Côté de TVA et Bruno Marchand. En lien avec les nouveaux commerçants sur la rue Dorchester qui étaient inquiets du retrait des stationnements, des débarcadères et tout, je vous laisse entendre.
Il y avait même des nouveaux commerces dans ce secteur-là qui venaient d'arriver, qui étaient un peu surpris.
Qui passe un tramway? ce que vous dites?
Oh my God.
Ben non, mais qu'on retire des cases de stationnement, il aurait peut-être aimé avoir un petit peu plus de communication de la ville.
Et on l'entend, puis on a eu des exemples qui nous permettent à chaque fois d'améliorer notre façon de communiquer.
Oh my God, hey, on leur fait jouer. Quelle réponse baveuse.
Il y avait même des nouveaux commerces dans ce secteur-là qui venaient d'arriver, qui étaient un peu surpris.
Qui passe un tramway? Ça vous dit?
Hey, avec le petit rire, c'est qui qui fait le petit rire à côté?
C'est Marc Desrivières.
Marc Desrivières qui fait le petit rire à côté. Il passe un tramway. C'est un maire, malheureusement, qui gère par idéologie et non pas qui gère la ville de façon pratico-pratique. Puis je vais faire un comparatif. C'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui lance le livre bleu en pleine tragédie à Montréal. Aucune sensibilité pour des gens qui, des fois, vont mettre jusqu'à leur dernier sou dans un projet. Ce que le maire de Québec n'a jamais fait, là, soit dit en passant. Là. Puis là, je ne l'ai jamais fait, moi non plus, parce que je sais que je n'ai pas cette fibre entrepreneur-là. Mais je respecte à 1 000 000 % ces entrepreneurs qui décident d'aller au bout de leur rêve. Et la réponse de notre maire, notre premier magistrat, c'est « Ça nous a pris une bonne centrale. » C'est épouvantable.
Ah non, puis je suis d'accord avec toi. Puis j'irais pas jusqu'à faire la comparaison que tu as fait. Par contre, quand il y a toujours tes actions, puis des fois, il y a ce que tu dis aussi. La ville de Québec, en général, dans ses actions jusqu'à maintenant, avec les commerçants, ce qu'on entend sur le terrain, quand on met les actions individuellement en place, ça se passe bien. Mais quand tu es maire d'une ville, d'avoir cette sorte... Tu sais, ça, ça sonne comme de l'arrogance.
Exactement.
Ça sonne comme de l'arrogance.
Tu mets le bon terme, c'est de l'arrogance envers des commerçants qui font vivre ta ville.
C'est comme si on les prenait de haut. Quand on répond à des questions comme ça, une journaliste qui pose la question, qui dit « Hey, il y a des nouveaux commerçants qui sont surpris de ce qui arrive. » De répondre de cette façon-là, je trouve que c'est méprisant pour
ces
commerçants.
Parce que t'es, l'information sur les travaux, là, on les a eu quand? Il y a un mois et demi, vraiment, dans Saint-Roch, que là, Dorchester allait être fermé, puis ainsi de suite. Fait que le nouveau commerçant qui s'est installé là, il est passé. Il ne peut pas savoir si ça serait pire comme ça, les travaux.
Ouais, c'est ça, on les a eu. Ça fait quand même quelques mois, mais il y a de ça un an.
C'est ça. Fait que le commerçant qui s'est installé là, il ne fait pas penser que ça allait être autant le Dawa. C'est un très, très, très grand manque de sensibilité. Par texto, le maire a toujours reçu de l'argent des autres, jamais de création de richesse, un têtu de subvention, toujours à minimiser les conséquences. Preuve du manque de respect du maire. C'est un égocentrique. Il veut faire ce projet pour le Québec au détriment du peuple. Donc, tu sais, c'est ça. C'est que ça fait tout ressortir. La haine envers le projet de tramway, ça fait ressortir le côté négatif du tramway, alors que s'il travaillait adéquatement en amont puis qu'il démontrait une sensibilité, il ramènerait pas les gens dans ce vieux pattern-là.
Tu sais, le message du point de presse aujourd'hui, c'est « ça se passe bien », puis il n'y a pas tort. Puis je le répète, la ville de
Québec...
Je
l'ai dit d'entrée de jeu.
« Ah, pas tort, ça se passe bien jusqu'à maintenant, c'est vrai. » Félicitations à la ville. Pour de vrai, ils ont fait bon travail en général avec la gestion des travaux jusqu'à maintenant. Mm-hmm. Mais après ça, d'entendre un commentaire comme ça, ben t'as pas le choix de réagir. T'es un commerçant. T'imagines-tu des nouveaux commerçants sur Dorchester qui ont des inquiétudes, qui se disent « Voyons donc, qu'est-ce qui va arriver de mon commerce? » Ils entendent le maire répondre à leurs inquiétudes comme
épouvantable.
Ça. C'est sûr que ça vient chercher.
Complètement épouvantable comme réponse de notre maire. Après la pause, Dave Poitras, directeur stratégique et scientifique pour le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, va être avec nous. Ça va être une entrevue très intéressante, comment les gens se radicalisent, mais surtout, quels sont les signaux qui nous permettent justement de voir qu'un de nos amis est en train de se radicaliser. C'est ce qu'on vous offre après cette courte pause. On va changer les idées de ce maire-là qui pense pas aux commerçants.
Quoi? Encore plus bas qu'avant?
Regarde ça! 13,6 kg de frites coupe droite Sunspun pour seulement 33,99 $.
Oh là là! C'est plus bas que...
Tu as le signal Wi-Fi dans mon sous-sol? Attends, tu vas où, là?
Économiser pour notre entreprise.
Économiser pour votre entreprise, c'est notre affaire. C'est pourquoi on baisse les prix sur des centaines d'articles. Club Entrepôt, le plein de valeur. Adhésion sans frais. Détails à clubentrepôt.ca.
Le 3 juillet, Québec célèbre son 418e anniversaire. participez aux activités gratuites. Dans le jour, prenez part au circuit touristique du Vieux-Québec ou visitez l'Hôtel de Ville. Et en soirée, ne manquez pas le spectacle de l'Orchestre symphonique de Québec à la place Jean Béliveau. Détails et programmation complète au ville.quebec.qc.ca/3juillet. Une invitation de la Ville de Québec.
C'est parti pour la grande vente porte ouverte chez Escale VR Beaumont. Du 25 au 28 juin seulement, profitez de rabais allant jusqu'à 20 000 $ sur une vaste sélection de VR neufs et usagés. Roulotte, tente roulotte, fifth wheel, boîte campeur, roulotte pliante et motorisée. Sur place, toute la famille s'amuse avec les jeux gonflables. En plus, courez la chance de gagner un scooter électrique d'une valeur de 1 500 $. Financement disponible avec des taux à partir de 5,99% ou ne payez rien avant septembre 2026. Escale VR Beaumont, sortie 337 de l'autoroute 20.
Le caucus. Du lundi au jeudi midi, ne manquez pas les explications simples de dossiers parfois complexes. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le caucus. Du lundi au jeudi midi, dans On en jase.
Boulevard. 102.1.
Vous êtes électricien. Détenez une licence C. La raffinerie Jean-Gaulin de Lévis recrute. Le 15 juillet en soirée, venez découvrir le poste de technicien en raffinage. Un rôle unique qui combine électricité et opération au cœur d'un environnement industriel dynamique. Rencontrez nos équipes, explorez nos installations et voyez concrètement à quoi pourrait ressembler votre avenir chez Valero. Une expérience en industrie est un atout, mais votre motivation à apprendre compte tout autant. Réservez votre place dès maintenant en écrivant à courrier RH à commercialvalero.com.
Pump it, pump it, pump, pump it avec Sanivac. Pump it, pump it, pump, pump it avec Sanivac. Sur ton chantier, dans ta cour, dans ton garage, quand ça bloque, Sanivac débarque. Hey, hey. Tes toilettes, pump it. Tes égouts, pump it. Drain de garage, pump it. Trappe à graisse, pump it avec Sanivac. Sanivac, toilettes portatives, hey. Rouleaux de sanitaire, hydroexcavation, tout ça avec Sanivac. Sanivac, on pompe tout, on nettoie tout, on livre partout. Pump it. Un seul appel, on s'occupe du reste. Pump it avec Sanivac. Sanivac, pump it.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jetable en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance et jouez la roulette au blackjack et à bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
À la recherche d'un VUS de luxe offrant espace, confort et élégance, c'est le moment de découvrir le Lexus RX 350 Premium 2026 chez Boulevard Lexus. Profitez d'une offre exceptionnelle en location 24 mois à seulement 1,9% à partir de 678 $ par mois avec acompte. Spacieux, raffiné et conçu pour rehausser chaque trajet, le RX est prêt à dépasser vos attentes. Visitez Boulevard Lexus dès maintenant pour en faire l'essai avant qu'il ne soit trop tard. Boulevard Lexus, le luxe prend la route avec vous.
Vieux frigo, congélo, climatiseur, ils ont l'air inoffensifs. Pourtant, leurs gaz peuvent être nocifs s'ils sont mal recyclés. Pardon. Certains gaz sont plus dommageables que d'autres. Go Recycle, recycle vos vieux appareils réfrigérants.
Cet été, échangez les écrans contre les étoiles. Avec 100 destinations fixes, vivez la magie du cinéma géant en plein air partout au Québec. Derrière l'aventure, une famille passionnée de camping, de plein air et de voyage qui crée des soirées mémorables sous le ciel d'été. Besoin d'idées pour vos prochaines escapades? Découvrez leurs événements, leurs conseils et leurs collections dont la Dead Wild Club sur 100destinationsfixes.com. Camping et entreprises du Québec, quelques dates sont encore disponibles cet été. Réservez vite avant que la tournée ne reprenne la route.
L'actualité présentée par les vélos sphériques. Venez découvrir le meilleur choix de vélos électriques selon Protégez-vous. Nos conseillers d'expérience vous attendent chez Vélos Sphériques au 850 rue des Rocailles.
La meilleure équipe parlée à Québec. Est à Boulevard 102.1.
Are you alive?
102.1.
Are you alive?
Salut, c'est Marceau,
Jeff Fortin
et Max Larouche,
Catherine Bachand,
Antonin Iaccarini
et Mathias Surcotte.
Salut, c'est Denis Gravel,
Véronique Bergeron
et Audrey Pinchot.
Nous sommes
Boulevard 102.1. Jase.
Très hâte à notre prochaine conversation avec M. Dave Poitras, qui est directeur stratégique et scientifique pour le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Mais avant, circulation, Mathias.
Oui, on a des problèmes sur la route malgré le fait que on est 13h19 un mardi, puis c'est surtout dû à différents travaux. Premièrement, la 20 direction ouest, ça risque d'être difficile tout l'été. Préparez-vous, armez-vous de patience. C'est présentement entre Taniata, ça remonte entre Chemin des Îles et Président Kennedy, 20 direction ouest en ce moment. Également, Capitale en direction ouest aussi. C'est à Boulevard Neuvial environ. environ que ça commence. Ça remonte jusqu'à l'heure ancienne. C'est au rouge dans le secteur aussi à cause de travaux, si on comprend bien. Et l'heure ancienne, direction sud, pour accéder à la capitale, léger ralentissement.
Vous êtes sur la route BLVD 102.1, c'est notre application. Vous pouvez la télécharger gratuitement sur App Store, Google Play Store. On a notre web radio sur le blvd.fm. Et également, pour nous écouter à la maison avec votre haut-parleur intelligent, vous dites « Écoutez BLVD 102.1 ». On va de ce pas rejoindre Dave Poitras, qui est directeur scientifique et stratégique pour le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Monsieur Poitras, merci beaucoup de participer à l'émission d'En Jase.
Merci de me recevoir.
Ça fait plaisir. Monsieur Poitras, je commencerai avec cette question tout simple. Pourquoi les gens se radicalisent?
C'est un processus qui est extrêmement complexe. On ne peut jamais parler d'un facteur qui fait en sorte qu'une personne va décider de s'engager dans une forme d'extrémisme ou de radicalisation qui pourrait mener à la violence. Généralement, si on regarde plusieurs parcours, on va voir que ça se déroule premièrement sur un certain nombre de semaines, de mois, voire d'années, où les gens commencent à percevoir le monde à travers une lunette qu'on pourrait dire binaire, c'est-à-dire qu'on commence à voir des amis, des ennemis. On commence à voir certaines institutions qui nous veulent du bien, d'autres du mal. C'est-à-dire qu'on commence tout simplement à manquer un peu de nuance dans notre perception de la société et des enjeux sociaux, mais aussi pour on tente de chercher des réponses à certaines des questions. On tente d'essayer de comprendre comment notre situation peut être expliquée. C'est généralement en tombant dans certaines théories qui explication souvent simpliste qui fait en sorte que certaines personnes peuvent commencer à chercher des solutions auprès d'explication.
Est-ce que ça commence souvent avec une solitude, un rejet, ou il y a plein d'autres facteurs qui peuvent expliquer pourquoi je tombe dans la radicalisation?
Il y a plusieurs facteurs. Ça peut être, comme vous l'avez mentionné, un phénomène qui peut être un événement qui va marquer une accélération de la radicalisation. Mais oui, il y a plusieurs facteurs. On parle, oui, de l'isolement. On peut parler d'un épisode de rupture amoureuse, d'une perte de travail. On peut parler aussi de différents événements mondiaux qui font en sorte que ça peut mettre en lumière certains des aspects qui sont propres à notre vie. Donc, c'est vrai, comme je le disais, c'est vraiment multifactoriel. Il ne faut pas mettre l'accent sur un trait plus qu'un autre.
Est-ce que, puis là, je vais vous poser la question, parce qu'on a l'impression que toutes les personnes radicalisées sont en quelque sorte isolées. Est-ce que c'est l'isolement qui mène à la radicalisation ou c'est la radicalisation qui mène vers l'isolement?
Bonne question. C'est certainement des personnes qui peuvent être isolées, en effet, qui vont aller chercher des réponses en ligne pour essayer de bien comprendre la situation dans laquelle on se trouve. Mais ça peut être aussi des personnes qui faisaient partie d'un groupe qui, tout à coup, sont exposés à une certaine idéologie qu'ils n'avaient pas nécessairement perçue au départ. Ils entraient dans un groupe pensant que on a parlé beaucoup là, de différents groupes masculinistes dans les dernières semaines, plutôt associés aussi au Active Club, des personnes qui pensaient rentrer dans ces clubs-là pour pouvoir s'entraîner, pour apprendre les arts martiaux et ainsi de suite. Et au fur et à mesure de leur implication dans ces groupes, peuvent être socialisés à différentes formes de suprématie blanche, de misogynie aussi. Donc, encore une fois, il n'y a pas un parcours qui est typique, mais en effet, l'isolement, le changement d'intérêt peut faire en sorte qu'on se penche sur différents réseaux sociaux qui vont tenter d'apporter des réponses à nos questions.
La responsabilité des médias sociaux, justement, par rapport à ce principe-là, parce que les médias sociaux fonctionnent sous le fait que je veux toujours te pousser avec mon algorithme que tu viens de consommer. Donc, moi, je trouve qu'il y a une large part de responsabilité dans la radicalisation. Vous en pensez quoi?
Il y a plusieurs études, en effet, qui démontrent au cours des dernières années que les jeunes sont de plus en plus exposés à du contenu haineux en ligne. Il y avait une étude qui avait été menée en Europe par University of Kent, si je me souviens bien, qui démontrait là, qu'en moins de 5 jours, un individu qui commençait à regarder des propos misogynes pouvait passer de 13% d'exposition à 70% d'exposition quelques jours. C'est énorme. Même chose au Canada, il y avait une étude des chiffres qui étaient rapportés par Statistique Canada en 2022, comme quoi les jeunes de 15 à 24 ans avait été exposé à du contenu haineux dans la dernière année à proportion de 60 %, si je me souviens bien, et 13 % des jeunes seraient exposés à ce type de contenu de manière quotidienne. Donc, en effet, ce sont des endroits où on est très facilement exposé à des contenus haineux, et ça, c'est de plus en plus mesuré.
J'ai un bon groupe d'amis d'enfance. Moi, on est une dizaine, puis évidemment, avec les médias sociaux, puis même en tant que parent, j'ai un risque aussi que ça arrive à mes enfants. Comment je fais pour détecter les signaux d'un enfant qui jusqu'à présent allait bien ou d'un ami qui allait bien, mais qui commence à se radicaliser?
C'est toujours une combinaison de facteurs, encore une fois. Si votre enfant n'a jamais eu beaucoup d'amis, tout à coup, il commence à avoir beaucoup d'amis, combiné à plusieurs autres facteurs et vice-versa. Quelqu'un qui avait beaucoup d'amis puis du jour au lendemain commence à ne plus socialiser, combiné avec un ensemble d'autres facteurs, que ce soit un changement d'intérêt, quelqu'un qui était extrêmement actif dans les clubs sportifs, tout à coup, du jour au lendemain, ne veut plus s'impliquer dans ces clubs sportifs, décide de passer plus de temps en ligne, avait d'excellentes notes à l'école, du jour au lendemain aussi, décide de ne plus s'impliquer à l'école. Donc, c'est vraiment une combinaison de comportements qui fait en sorte qu'un individu ça peut nous mener la puce à l'oreille comme quoi il pourrait avoir un certain enjeu à l'égard de la radicalisation, d'adhésion à certaines théories, idéologies extrémistes à travers les propos aussi. S'il commence toujours, la personne commence toujours à désigner un groupe comme étant la source de tous ses maux, de tous ses problèmes, avoir des propos qui sont de moins en moins nuancés, qui commencent à être très accusatoires, voire violents, peut faire en sorte, évidemment, qu'on peut commencer à se questionner. Et c'est dans ce type de cas, par exemple, que vous pouvez nous appeler et on va pouvoir voir avec vous est-ce qu'en effet, ce sont des propos qu'on peut qualifier d'extrémistes, de polarisants, d'éventuellement dangereux. Et si c'est bel et bien le cas, on va tenter avec vous de développer certaines stratégies pour pouvoir vous aider, par exemple, dans ce cas-ci, si on parle d'un enfant, de garder ce lien avec votre enfant. Ça peut être aussi des enseignants ou des enseignantes. Souvent, plus en plus récemment, la raison pour laquelle on nous appelle, c'est par exemple une enseignante qui enseigne l'évolution du féminisme, le droit de vote pour les femmes et qu'un élève remet en question ce droit de vote en classe. L'enseignante pourrait nous appeler pour voir d'abord est-ce que je dois m'inquiéter et si oui, comment revenir sur ce type d'enjeu-là en classe.
Oui, en gros, vous, votre rôle, c'est vraiment, une fois qu'on a cibler quelqu'un dans notre entourage qui a des risques de se radicaliser, vous pouvez accompagner les personnes à trouver des solutions. Comment accompagner cette personne-là pour, entre guillemets, la excusez-moi, je me suis perdu des mots, mais l'aider à moins se radicaliser ou à revenir un peu conscient de la réalité où il se trouve?
Oui, nous, on va parler de désengagement dans une voie de radicalisation. Parce que la déradicalisation en soi, en fait, on ne conçoit pas que la radicalisation en soi est quelque chose de mauvais. La radicalisation, une personne radicale, tout ça, c'est contingent du temps, des normes sociales dans lesquelles il se trouve. Il y a 50 ans, 70 ans, on trouvait que donner le droit de vote aux femmes, c'était une idée qui était extrêmement radicale. Mais bon, on voit qu'évidemment, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui menait dans ce cas-ci nécessairement à la violence. Donc, on n'en a pas nécessairement contre la radicalisation, on en a contre l'idée de s'engager dans une idéologie extrémiste qui ferait en sorte que la violence serait légitimée pour transformer l'ordre social en question.
Quand je vous parlais hors d'onde tout à l'heure, M. Poitras, vous me parlez que vous avez été créé en 2015 à Montréal, c'était la montée de l'islamisme. Maintenant, diriez-vous que la montée du masculinisme est ce qu'on doit redouter le plus dans notre société?
C'est certainement une des idéologies qu'on voit le plus en société, ou plutôt dans nos chiffres en ce moment. Dans la littérature aussi, c'est une des idéologies qui semble avoir pris de l'ampleur au cours des 5 dernières années au tournant de la pandémie. Mais je ne dirais pas que les autres idéologies dont vous avez fait mention sont absentes de nos appels, mais aussi de la littérature. Ce sont quand même des idéologies qui sont toujours présentes dans nos appels. Mais en effet, tout ce qui est masculinisme, antiféminisme, dont le mouvement INCEL fait partie, ce sont des idéologies qui sont également présentes sur le terrain. Mais ce n'est pas toute personne qui dit adhérer à ce type d'idéologie-là qui va nécessairement commettre des crimes. Mais en effet, ce sont des propos qui peuvent être assez déshumanisants pour les personnes qui les côtoient.
Dave Poitras, directeur stratégique et scientifique pour le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Rappelez-nous le numéro de téléphone pour vous joindre aux besoins, M. Poitras.
Je ne l'ai pas sous les yeux, mais vous pouvez toujours le trouver sur notre site Internet. En fait, maintenant, on a changé de nom aussi.
Ouais.
On s'appelle Ville sans violence. Donc, c'est ville au pluriel sansviolence.org. Et vous allez voir toutes nos informations sur le site.
Monsieur Poitras, merci infiniment d'avoir collaboré à l'émission On en jase ce midi. Puis je vous souhaite une excellente fin de journée.
Merci à vous.
Merci, au revoir. Dave Poitras, qui est directeur stratégique et scientifique pour le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Soyez attentifs à vos enfants, à vos amis. Si vous voyez que le même discours est toujours là, qu'il y a une fermeture face à des idées contraires, des propos contraires, que les habitudes sociales changent, levez. Le flag, c'est à la gang qu'on va réussir.
Et n'hésitez pas à le traiter aussi.
Non.
Des fois, ça peut être compliqué avec un ami. Des professionnels comme ça sont là pour vous aider. Je veux dire, si on ferme tous les yeux chaque fois qu'on entend des propos inacceptables, ben on encourage potentiellement à ce que un proche ou quelqu'un d'autre dans la société se radicalise puis peut potentiellement finir par faire un acte comme ce qu'on a vu hier.
Exactement, intervenez. C'est ce que j'ai avec les chambres d'écho. Intervenons, parlons-en. Au lieu de laisser ça aller, en les laissant aller, on les radicalise de plus en plus. On se fait du bien après la pause. Matt Paradis de Tout sur le hockey vient s'installer avec nous. On parle du repêchage de la Ligue nationale de vendredi.
Ce qui est épouvantable dans le quartier Saint-Roch. Hey, c'est pas petit, c'est seringue.
Hier, je dois aller porter une lettre au bureau de
poste.
J'arrive, je m'approche. Il y a un monsieur qui me regarde. Il est à genoux, à terre. Le bas de parc sert de table pour sniffer de la coke.
Oh!
Et là, tout d'un coup, je vois des policiers arriver en fou en arrière d'un gars d'à peu près 25 ans avec son longboard électrique, n'avait pas de casque. Et les policiers sont arrivés pour qu'on puisse intercepter.
minutes. Fini tragédie, Mathias Turcotte. On va parler de hockey.
Ça va faire du bien.
Oh oui, on va se faire du bien. On va faire du bien à nos auditeurs. Mais il y a une chose qui n'est pas finie, c'est la circulation.
Oui, Capitale, ça s'est réglé. C'est
cool,
surtout le 20 direction ouest. Puis je le redis, depuis le début des travaux dans le secteur de Taniata, c'est difficile. Donc ça va probablement être comme ça pas mal tout l'été. C'est entre Taniata jusqu'à entre Chemin des Îles et Président Kennedy sur la 20 en direction ouest que c'est au rouge actuellement. Le reste, ça circule bien. Il y a quoi que ce soit d'autre. 418-971-1021 par texto.
Je sais que le repêchage de la Ligue nationale approche quand je reçois ma petite notification qui me dit « Hey, Jeff Fortin, le guide de Tout sur le hockey des espoirs est disponible. » Cette année, deux versions du guide. Le guide régulier, le guide de luxe. Hey, le guide régulier, c'est 168 espoirs qui sont analysés par les spécialistes de Tout sur le hockey. Le guide de luxe, bien, vous avez le petit bonus de 26 espoirs des Canadiens de Montréal et de 32 espoirs du repêchage de 2027. Les gars sont tellement sur la coche qu'ils sont déjà sur l'année 2027 du repêchage. Et on a le bonheur d'avoir Matt Paradis, qui est le propriétaire de Tout sur le hockey. Matt, comment ça va?
Ça va bien. Ça va être Noël dans pas long.
Ben,
pour
c'est
nous autres,
ça. Hey, juste là, en quelques secondes, là, c'est combien d'heures de travail que vous mettez là-dedans? Parce que là, t'écoutes quoi? Une vingtaine de games par espoir? Là? Comment ça fonctionne?
Ben, tu sais, nos observateurs avec Tout sur le hockey, ils regardent à peu près une vingtaine de matchs par joueur.
Ouais.
Avec notre plateforme Instat Huddle, ça nous permet de regarder des matchs vraiment découpés en fonction des présences du joueur. Fait que c'est à peu près un 17 à 20 minutes. Fait qu'on fait le calcul, 20 minutes fois 20 par joueur. Les gars regardent à peu près un 160 espoir.
Hey,
je sais pas ma calculette à côté.
C'est
je veux pas vraiment le calculer
non,
parce que...
Ta blonde à la maison va dire « Hey, c'est du temps, tu passes pas avec les enfants, mon matin. » D'après moi, c'est pour ça que tu étais faire du bénévolat à l'école de ta fille.
Exactement. C'est pour ça qu'elle m'accompagne en studio présentement.
Exactement. C'est les vacances, pourquoi pas. Ouais, tu disais, c'est Noël avant le temps. Puis honnêtement, là, vous allez entendre plein d'analyses, plein de bons analystes aussi. Là, sur les réseaux de télé au Québec, mais les meilleurs analystes sont surtout sur le hockey. Gavin McKenna va être le premier choix?
Oui, fortement. C'est un joueur qui va répondre à Toronto. Il va répondre à un besoin qui ont perdu dans la dernière année.
Ouais, avec le départ de Marner.
Marner, c'était un excellent fabricant de jeu. Puis s'il y a quelque chose qui ressort beaucoup dans le jeu de Gavin McKenna, c'est sa création de jeu. C'est la façon qui va alimenter un Austin Matthews à moyen terme. Ça pourrait devenir très intéressant. Là.
Qui on voit d'autre comme gros espoir? Là? Moi, j'ai en tête, est-ce que les Canucks de Vancouver vont pêcher Caleb Malhotra, le fils de l'autre? Il veut-tu jouer pour son père? Tu sais, c'est qui dans le top 5, là, les autres, que ça brasse?
Ben, tu l'as dit, Caleb Malhotra, c'est un joueur... Nous autres, on a un observateur dans notre équipe qui le place même premier là, dans sa liste des meilleurs espoirs. Ouais, c'est,
meilleur que McKenna, je n'aurais pas pensé ça.
Exactement, parce que c'est un joueur de centre très complet. T'sais, on se souvient de son père Manny, qui était un spécialiste des mises en jeu, un spécialiste
très défensif.
Du jeu défensif. Mais Malhotra, son fils, c'est similaire au niveau du jeu défensif, mais avec une touche offensive très intéressante. Un gars de 80 points à peu près. Fait
qu'un genre de Suzuki Bergeron en devenir.
Les bottines sont quand même bonnes à chausser, mais dans le type de profil, ça pourrait s'apparenter.
Du côté de San Jose, qui ont deuxième choix, il y a comme un débat qui se fait. Puis honnêtement, j'ai vu plein de mock drafts qui mettaient un des noms, puis plein de mock drafts qui mettaient l'autre nom. Entre Ivar Stenberg et Chase Reed. Ivar Stenberg, qui est comme projeté comme, en général, le deuxième meilleur joueur du repêchage derrière McKenna. Mais Chase Reed serait le meilleur défenseur. Puis les Sharks auraient plus besoin d'un défenseur. Où tu te places par rapport à tout ça?
Je pense que pour San Jose, ce serait mieux un Chase Reed qui a... nos observateurs le voient comme un futur top 1, top 2 dans la Ligue nationale. Fait que quand t'as déjà Sam Dickinson, tu viens quasiment d'assurer ta première paire à long terme dans l'équipe. Puis un gars comme Ivar Stenberg, qui est excellent, là, très bonne vision de jeu et tout, mais tu sais, t'as déjà un William Eklund, t'as déjà un Will Smith, t'as déjà un Macklin Celebrini, donc tu viens comme... Si ton alignement est trop homogène, tu sais, c'est pas toujours bon non plus, fait que je pense que d'ajouter Chase Reed viendrait vraiment compléter à long terme.
Puis dans ce cas-là, si par exemple Toronto prend McKenna, par la suite Reed, par la suite Malhotra, Stenberg vient se glisser quatrième, est-ce que ça pourrait être en quelque sorte... Ivan Demidov de son repêchage, le joueur qu'on voit comme le deuxième meilleur, mais qui finit par glisser?
Ouais, j'irais peut-être pas jusqu'à comparer Demidov au niveau, parce que Demidov, à son année repêchage, était nettement meilleur comme joueur global que Stenberg. Stenberg a été très bon tout au long de la saison. Il y a quand même quelques lacunes au niveau du jeu périphérique, tu sais. C'est un des joueurs qui est le plus proche de jouer dans la Ligue nationale, mais en même temps, est-ce qu'il peut avoir un succès immédiat comme Ivan Demidov? Ça, c'est un petit peu plus en doute, là.
Moi, j'aime ça me péter les bretelles quand j'écoute le repêchage grâce à vous autres, la gang de tout sur le hockey. Puis là, je vais l'écouter avec mes gars, mes neveux, mon père, mon frère. Quel nom que quand il va sortir, je vais dire, « Hey, ça, là, c'est le pic. » C'est le choix... que dans 3-4 ans, on va faire « wow ». Moi, je me souviens de vous avoir entendu parler de Zach Benson. Fait que quand Buffalo repêchait Benson, j'ai dit « checker les bains, ce Benson-là, ça va être un top 3 de ce repêchage-là ». Puis quand il a joué dans les séries contre le Canadien, j'avais vraiment l'air intelligent. C'est qui, là, cette année?
Ben, tu sais, on se rappelle, en 2022, on avait beaucoup vanté Lane Hudson à son année repêchage.
Oui, c'est vrai.
Zach Benson aussi, on avait été très, très vocal sur ce profil-là. Cette année, Jeff, je suis pas sûr que tu vas avoir l'occasion de péter les bretelles.
Il n'y en a pas un de même.
Il n'y en a pas tant que ça cette année. T'sais, des joueurs là, que vraiment notre équipe est tombée en amour et qu'on a mis vraiment plus haut que d'autres organes de scouting ou d'observation des espoirs. Là. C'est une cohorte très axée sur les défenseurs, donc qui était plaisante pour notre équipe à regarder. Mais c'est pas une cohorte qu'on se dit, mettons... je vais prendre en exemple le Canadien de Montréal qui repêche 28e. C'est pas une cohorte que je me dis je monterais de 8 rangs pour aller chercher tel joueur.
Okay.
Tu risques d'avoir un profil quand même similaire, 8 rangs plus haut, 8 rangs plus bas. Donc, c'est profond comme repêchage, mais quand même assez similaire comme profil qui ressort.
Notre Maddox Dagenais des Remparts, tu le vois où? Xavier Villeneuve aussi, le défenseur de l'Armada de Blainville-Boisbriand qui devrait sortir en première ronde. T'es vois où? Peut-être entre 15 et 25?
Peut-être un petit peu plus à la fin de la première ronde.
Okay.
Maddox Dagenais a bien fini la saison quand même. Là, il a effacé certains doutes. Puis tu sais, on se rappelle, l'année passée, en début de saison, c'était un petit peu plus dur en raison des commotions cérébrales qu'il avait eues. Fait qu'il avait commencé l'année un petit peu plus loin sur les listes. Ça s'est restabilisé à la fin de la saison. Nous autres, on le place peut-être plus à la fin de première ronde. Dans le cas de Xavier...
Canadien 28e?
Ben, peut-être. Ça pourrait être une cible potentielle, effectivement, okay. Là, pour lui. Puis, tu sais, c'est un gars avec un bon gabarit. Puis,
vraiment.
On se rappelle...
Un très bon lanceur, lancé de Ligue nationale.
Très bon lancé. Puis, on se rappelle le Pierre Dagenais de l'époque qui allait devant le filet puis qui dérangeait. Ça peut être un profil intéressant qui pourrait se développer comme ça. Mais Xavier Villeneuve, ce qui va être le fun à regarder, c'est est-ce qu'il va sortir avant ou après Tommy Blair, un Américain qui a joué avec Moncton, qui a fini meilleur recrue de la CHL, si je me rappelle bien. Meilleur défenseur au niveau des points.
5 et 6 seulement. Hein? C'est un genre de Lane Hudson.
Ouais, il est pas super
160
grand.
Livres que je lisais.
Ouais, c'est ça. C'est pas...
c'est 6 pieds, 170 livres ici qu'on le met devant moi. Mais d'après moi, 6 pieds, on y a mis des bonnes lames.
Ouais,
là,
c'est ça. Puis tu sais, Xavier Villeneuve est 5 pieds 11, 163. Xavier Villeneuve, il a été ralenti par les blessures à la fin de la saison, ce qui a fait qu'il a baissé un petit peu dans les listes. Mais c'est vraiment deux profils quand même assez similaires qu'offensivement, ils peuvent très bien diriger le jeu à la ligne bleue. Mais ça va être le fun de voir lequel va avoir le dessus au repêchage.
Ben oui, ça va être super intéressant. Hey, pas le choix de te poser cette question-là en terminant avant de te laisser partir. T'attends-tu une transaction du Canadien? Nous sommes habitués à ça au repêchage?
Absolument. Moi, ouais. Je ne m'attends même pas à ce que le Canadien repêche au 28e. C'est pas un choix qui va te permettre d'aller chercher... Le joueur qu'on a besoin, va falloir greffer autre chose, donc un très bon espoir, incluant le 28e choix. Mais je m'attends pas à ce que le Canadien repêche cette année. Puis j'ai dit la même chose l'année passée, puis finalement, ça a fini en Noah Dobson. Fait que ouais. Là, j'espère pas me tromper encore.
Michael Hage, va-tu être échangé, Michael Hage, on le garde?
Si le prix en vaut la chandelle, moi, je me dis toujours on faut pas trop s'attacher aux espoirs, même si on les aime. Michael Hage, c'est l'espoir qui a le plus de valeur présentement. Et si ça te permet de combler un besoin immédiat qui va te permettre de gagner en série, c'est plate, mais il va falloir le sacrifier.
Moi, quand un gars qui tripe ses espoirs a écouté 20 matchs de présence d'un même joueur, me dit faut pas trop s'attacher aux espoirs, j'ai tendance à le croire.
C'est-tu un exemple de rationalité pure?
C'est un exemple de rationalité pure parce que normalement, le désavantage des recruteurs, c'est ça, c'est qu'ils tombent en amour à un moment donné avec un joueur. Puis là, ils vantent, puis à un moment donné, whoop, le gars fait patate. Puis donc, comment ça, j'avais pas vu ces signaux d'alarme-là ce joueur-là?
Mais tu vois, Lane Hudson, Ivan Demidov et même Jacob Fowlers, c'est trois espoirs, par exemple, que j'aurais mis mon point sur la table pour garder.
Vraiment. Je me souviens, Fowler, d'avoir lu ça aussi dans votre guide. Le guide des meilleurs espoirs, tout sur le hockey, disponible sur le site, tout sur le hockey, c'est via la plateforme Patreon. Et on le répète, c'est un guide régulier avec les 168 espoirs et un guide de luxe avec 26 espoirs des Canadiens et les 32 espoirs du repêchage 2027. Matt Paradis, toujours un bonheur de t'avoir avec nous autres en studio. On se reparle quand? Moi, je suis là lundi prochain. On s'organise un petit rendez-vous lundi prochain?
On peut se parler.
On s'organise un rendez-vous vers cette heure-là, vers 13h30. Puis on va parler du repêchage de la Ligue nationale. Courte pause, puis on fait juste se mettre dedans pour le match de soccer de demain. Team Canada, après la pause.
Jusqu'à 14. Et que tu finis jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.1.
Dans 7 minutes, c'est le début de Gravel dans le retour avec Denis, Audrey et Véro. La dernière de la saison parce que notre chum Denis part en vacances et va revenir le 3 août. Si vous ne suivez pas la Coupe du monde de soccer, commencez à vous y intéresser. D'un, les stades sont remplis à pleine capacité, l'ambiance est folle et les meilleurs joueurs sont en feu. Hier, Argentine, 2-0. Deux buts de Lionel Messi, il est devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il est rendu à 18 en carrière. Mbappé en a marqué deux autres avec la France dans un gain de 3-0 sur l'Irak. La Norvège a surpris le Sénégal, victoire de 3-2. Deux autres buts pour leur meilleur joueur, Erling Haaland. Et là, cet après-midi... Magalons ça, Ronaldo à sa 6e Coupe du Monde, enfin marqué son premier but. Il est rendu à 2, c'est 3-0 Portugal à la mi-temps contre l'Uzbekistan.
Pour de vrai, des gros canons cette année. Puis je sais pas si c'est un lien parce qu'il y a, plus d'équipes cette année que les autres éditions. On a 48 équipes au lieu de 32. Tu as des équipes plus faibles en partant. Je sais pas si ça a un lien avec ça qu'il y a autant de buts qui se fait scorer par des gros joueurs, des Messi, des Mbappé, des Haaland qui remplissent le filet depuis le début de la Coupe du Monde. Mais on a tout un spectacle. Pour ceux qui n'ont pas commencé à suivre et qui attendent la phase éliminatoire, c'est lundi prochain. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup, là, qu'à la phase de groupe, il n'y a pas d'enjeu d'élimination à chaque match. C'est pas nécessairement des gros matchs à chaque fois. C'est lundi prochain que ça commence la phase éliminatoire.
Demain, c'est le plus gros match de l'histoire du Canada en soccer alors qu'il va affronter la Suisse. C'est à 13h, c'est au BC Place à Vancouver. Une nulle du Canada nous met premier dans notre pool. Une victoire également. Une défaite, ça sera pas la fin du monde. On va quand même se qualifier pour les 16e de finale. Le match se joue en même temps que les deux autres équipes dans notre pool, c'est-à-dire la Bosnie et le Qatar. Donc, suivez ça. C'est sur RDS.
Ça va être un drôle de match, ça. Supporter le Canada, être un fier patriote du Canada, la journée de la fête nationale du Québec.
Exactement. Denis s'en vient pour son dernier show de la saison. Il part en vacances par la suite avec Audrey Véro. Merci d'être à l'écoute. Bonne Saint-Jean, les amis.
Bonne Saint-Jean.